Collection Cadre à part, livre 4, de Roger Marie, avec les voix de Midori et Roger Marie. Bonne écoute.
Les limites. Je n'ai jamais bien trouvé mon mari intelligent, mais je ne pensais pas qu'il deviendrait con, à ce point. Cette mauvaise appréciation a été un handicap au quotidien, et il m'a été très difficile de parcourir les premières années de ma vie d'adulte avec un minimum de sérénité. Comme beaucoup de jeunes filles en fleurs, je me berçais de douces illusions en pensant qu'avec le temps, il changerait, s'améliorerait et s'ouvrirait davantage. Son éducation rigide, les nombreux coups qu'il prenait sur la gueule pour son bien, lui avaient bloqué certains réflexes que je pensais inhérents à tous. Je ne voulais pas croire que la volonté première de chacun n'était pas d'être curieux de tout. Avoir faim de connaissances coulait de source. En toute bonne foi, je croyais que libéré du joug paternel, mon époux montrerait des signes d'intérêt pour ce que j'estimais fondamental, à savoir réfléchir avec sa tête, puis analyser ses automatismes. Ma candeur ne dura pas. En quelques années, je fis d'amers constats. Mathieu était un crétin de première et il le resterait. Je ne pourrais rien contre sa volonté farouche de se fixer des limites, de rester dans sa zone de confort. D'ailleurs, les faits me renforçaient dans mes nouvelles convictions. En 15 ans, je n'avais jamais vu Mathieu ouvrir un livre. Même dans le journal local, il ne lisait que les chapeaux, et encore quand ils étaient écrits en gros et qu'il commentait des sports de première division. Ça ne l'empêchait pas de discuter avec ses camarades de boisson pendant des heures après le taf, tandis que je torchais notre sotte engeance, d'une main tout en préparant la bouffe de l'autre. Parler pour bouger leur bouche sur des sujets qu'ils ne maîtrisaient pas, se la raconter, ne les gênait pas plus que ça. Le marrant avec les imbéciles, c'est qu'ils s'amusent de leur imbécilité. Au 3e chiard, j'ai décidé d'arrêter les frais. D'autant plus ardemment que sur mes 3 enfants, il y en avait un de particulièrement abruti, aux gènes particulièrement mal répartis. La connerie de son père d'un côté et ma faible constitution de l'autre n'allaient pas lui ouvrir beaucoup de portes. Je me suis dit que ma vie serait pourrie si je ne me sortais pas les doigts. Il était pourtant prometteur, le Mathieu. En réalité, il était surtout beau, musclé, sportif. Ses maladresses me faisaient rigoler parce qu'à l'époque, je les prenais pour de l'humour. En fait, ce n'était que des maladresses. Il me fixait avec un sourire tranquille, me disait que j'étais belle et se fendait d'un « je t'aime » que je souhaitais sincère. Mais Mathieu n'aimait que l'idée de l'amour et n'adulait en moi que mon salaire d'enseignante, garanti sur facture. Eh oui, c'est triste à pleurer des épines. Avec le recul, j'arrive à me souvenir des bons moments, mais ça ne me suffit plus. Parce qu'à force de l'entendre déblatérer, je me lasse. Je me désespère. Il est devenu le chantre des lieux communs les plus abjects. Ses saillies stupides ont achevé mes restes de bons sentiments à son endroit. Les enseignants sont des feignants. Les fonctionnaires sont des branleurs incompétents. Les patrons sont tous des salauds et des profiteurs. Comment résister? Involontaire parodie, Mathieu sortait des râles insanes de sa bouche. Je ne pouvais plus leur prêter la moindre attention. Et pourtant, il prodiguait à qui voulait l'entendre des conseils pour tout et sur tout. Avec cette certitude qu'ont les grands cons de dire du fondamental, de l'indiscutable. Il allait d'un couplet à l'autre, tel un saltimbanque, un magicien de rue à la recherche de son public. Mais sans aucun talent, c'était difficile de trouver des spectateurs. Il parlait sans vergogne de l'autorité alors qu'il était incapable de se faire obéir de ses propres enfants. Il parlait de courage comme vertu cardinale alors qu'il en manquait cruellement, qu'au moindre bobo qui piquait, il gémissait. Il avait même un grand couplet sur la formation continue, de la nécessité de se cultiver encore et toujours, d'être curieux de tout, car le monde bouge et personne ne va t'attendre. Pourtant, son chef, d'après Mathieu fin perspicace, un connard, le rabrouait sans cesse parce qu'il n'utilisait pas correctement l'ordinateur qui gérait la production du service dont il dépendait. Ces fameux ordinateurs qu'il maîtrisait quand il s'agissait de jouer en ligne avec d'autres abrutis et qui bientôt allaient robotiser son poste de travail pour le laisser sans voix. Il pourrait alors hurler en défilant dans la rue avec ses collègues, hurler à la trahison comme si ses employeurs avaient des devoirs moraux. À l'évidence, seule la liberté de pouvoir l'ouvrir à tout moment est ce qui lui restait. Mais sans la remettre en cause, je m'aperçus au fil des ans qu'elle pouvait faire l'objet d'un usage discutable. J'ai fini par le détester, détester les gens comme lui, détester les imbéciles qui nous font tomber les bras et souffrir de désespoir. Détester ceux qui pensent qu'une femme, si elle n'a pas été gravide, ne sera jamais une vraie femme. Ceux qui pensent qu'un PD n'est pas un homme. Ceux qui ne causent pas pareil, qui ne prient pas pareil, qui ne procèdent pas pareil. J'avais fini par détester ces érudits de la connerie et Mathieu en faisait désormais partie, définitivement. Dans ma candeur immature, je pensais que mon devoir était de m'enrichir des différences de l'autre pour vivre en harmonie avec lui et mieux supporter les confrontations brutales que nous imposaient nos sociétés. Mon mari, lui, ne pensait tout simplement pas. Spectateur d'un monde complexe, il l'avait réduit à sa mesure, c'est-à-dire à pas grand-chose. Avec le temps, l'érosion et l'envolée quotidienne des neurones qu'il ne songeait pas à compenser, il avait vite changé. Vrai Mathieu, tu as bien changé depuis ce trop d'années. T'es devenu tout carré, le cerveau étriqué. Te voilà muré dans de bêtes certitudes qui ne te rendent même pas heureux. Je lui avais souvent reproché les limites qu'il se fixait parce qu'elles l'empêchaient d'avancer mieux, plus loin. Mais il ne m'écoutait pas ou ne me comprenait pas. Il s'en sortait d'une pirouette imbécile, pompée dans les répliques des films violents et abrutissants dont il s'abreuvait tard dans la nuit, pour s'endormir comme une masse, épuisé et surtout délivré de ses devoirs conjugaux. Nous n'avions plus de projet commun. Son inertie m'avait découragé puis usé. Je n'ai plus envisagé le moindre changement ou une quelconque amélioration. En tout cas, pas avec moi. Les années se sont écoulées, nos enfants ont grandi bien nourris mais croissants à découvert, car sans âme sérieuse pour affronter la vraie vie. Les contradictions et la permissivité de leur père annihilaient la bonne volonté de leur mère qui s'efforçait de les éduquer. Je m'en suis d'abord voulu d'avoir trop attendu, d'avoir été aussi naïve, de ne pas avoir su comprendre cette force qui balait tout sur son passage, l'immobilisme. Mais j'étais en fait tout aussi responsable, comme j'allais l'être de mes décisions et de mes actes futurs. J'ai d'abord voulu me barrer loin de ce mari que j'abominais, mais je voulais aussi faire face, assumer de front mon erreur. Je lui aurais bien dit « Tu vois, moi aussi, j'ai des limites », mais il n'aurait pas compris. Il s'est réveillé avant de rendre son âme à qui bon lui semblait. Il m'a fixé, surpris, pas même effrayé. Une belle entaille profonde d'une oreille à l'autre et les jets de sang qui m'éclaboussaient. Finalement, j'ai choisi de lui trancher la gorge pendant son sommeil avec un coupe-chou que lui avait légué son père. Cela avait été facile à faire et presque agréable. Ici et maintenant. J'étais peureux de tout. Quoique honteux de l'être, je n'y pouvais rien. Devant le moindre danger ou la moindre surprise, un tant soit peu désagréable, je n'avais pas ce sursaut qui puisse me permettre de respirer posément et, juste après, me maîtriser. Je suffoquais comme un asthmatique en pleine crise. Je me recroquevillais nerveusement, perdais la parole et n'avais plus la moindre réaction. J'étais tétanisé comme un enfant craintif, paralysé de peur, suintant d'angoisse enfouie au plus profond de mon subconscient. Les aléas de ma vie merdique n'y avaient rien changé, bien au contraire. Je craignais mon ombre, le bruissement du vent, le moindre éclat de voix, les malentendus, les colères et toutes les choses trop brutales de la vie, à mon goût. Je ne voyais que les dangers, que le pire du pire. Une petite fièvre m'évoquait une grave maladie, une entorse, une claudication définitive. Une chiasse, la maladie de Crohn. Le moindre rapport, une petite vérole. Un frisson, Parkinson. Un oubli, Alzheimer. Jusqu'au regard insistant de mes congénères que je voyais en assassin me plantant un couteau entre les deux omoplates une fois mon dos tourné. Où que j'aille, l'inconnu m'assaillait et j'en tremblais d'avance. Le nouveau me clouait au sol. À la longue, je m'étais résolu. J'avais décidé de ne plus bouger un cil en dehors de mon environnement. Car en dehors de mes marques, qui devaient rester à leur place, je ne vivais pas. Du coup, je suis devenu infréquentable parce que inintéressant. Comment faire avec un mec qui ne prend pas l'avion par peur de tomber, le bateau par peur de se noyer, le tunnel par peur d'être enseveli, le téléphérique, le pédalo, une paire de skis et toutes ces choses qui relient les hommes entre eux ou les animent de concert. J'étais le problème, le chiant, le boulet. Je m'habituais à ma solitude. Je n'en souffrais pas puisqu'il s'agissait d'une habitude et que les habitudes étaient toujours bonnes à prendre. Débarrassé de la curiosité et des mauvaises surprises, j'avançais en crabe dans ce monde hostile, prenant garde à chaque faux pas. Crétin parmi les crétins dans cette société qui en fabriquait à l'appel, je ne me sentais pas trop seul. On élit des crétins, on mange crétin, on dépense crétin, on travaille crétin, on prêche la crétinerie comme s'il s'agissait d'une vertu. On donne notre sort aux élites qui se l'accaparent. Jusqu'au jour où, derrière chez moi, il y avait un bois où j'avais identifié chaque pouce pour ne point me perdre. J'y courais deux fois par semaine, les mêmes jours, à la même heure, à la même cadence, sur le même parcours. Je connaissais mon trajet par cœur. Je m'y trouvais tranquille sans avoir à me noyer en points d'interrogation angoissants. J'avais donné des noms à tout et je leur parlais. Je parlais aux raidillons, aux virages, aux racines, aux cailloux, et toc, et toc, et toc toxinoc. Je m'étais persuadée qu'en m'appropriant l'espace de façon plus intime, je tenais un moyen efficace pour conjurer mes peurs. Mais, dit-on, les jours se suivent et ne se ressemblent pas, ce qui pour moi était un drame. Ce fut un jour, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, où je pris la pleine mesure de ma nouvelle destinée. C'est en regardant un gland au lieu de regarder mes pieds que le déclic se produisit. Je me pris la chaussure dans une racine scélérate et m'étalai de tout mon long. La chute fut brutale. Elle m'incita à quelques minutes de récupération. C'est ainsi, en massant ma cheville devenue très douloureuse, que ma pensée vagabonda un peu plus loin qu'à l'accoutumée. Ce qui, en soi, était déjà une prise de risque énorme à mon niveau, puisque la routine était mon credo. Mais un eureka m'échappa. Je quittai mon droit chemin pour aller vers un autre truc qui m'apparaissait aussi être la vie et aussi pouvait me convenir. Car je me suis dit, ce jour pas comme les autres, que peut-être, si je m'étais pris le pied dans une racine, c'était pour mettre en exergue un aspect symbolique, un signe, comme pour me dire. De cet acte anodin, je bâtis ma théorie en pensant à toutes les fois où je me prenais les pieds dans mes racines. Voilà une chute qui pouvait devenir importante si je lui en donnais de l'importance. Elle était le résultat d'un dysfonctionnement du présent. Mon manque d'attention qui, cette fois-ci, m'avait condamné au gadin, avait un autre sens. Un sens caché. La perte d'une entière conscience à l'instant de l'acte sous-tendait bien d'autres choses. En ne prêtant pas attention à mon pas devenu maladroit, j'écartais la jouissance du mouvement instantané. Je ne trouvais mon chemin que dans une projection, devenue nécessaire et plus confortable, vers le futur. Vous dites en figurique, moi je dis « faut voir à voir » et à y réfléchir plus en avant, présentement. La réalité était d'une évidence à faire pâlir mes âneries de vivant. En un seul vol plané, je sortais d'une vieille léthargie. Je soignais ma pantophobie d'un coup d'un seul. Je rejetais bien loin ce handicap de naissance que j'avais perçu comme une fatalité. Moi. Conclusion du penseur à la racine. Perdre, ne serait-ce qu'une seconde, conscience de l'acte, implémente en nous, telle une longue et lente érosion, la nécessité d'imaginer des jours meilleurs passés comme futurs. C'est le seul moyen que nous avons trouvé pour nous rassurer. Ne pas vivre l'instant. Alors qu'il est si simple, autrement plus facile, de jouir tout de suite en regardant ses pieds sans s'attarder au gland. Alors qu'il est si simple, une fois à terre, de prendre la mesure de sa douleur et de la faire sienne au lieu de rêver à son absence. Question à quoi bon, aurait dit ma mère. Mais ma mère n'était guère crédible. Ma mère trimait en rêvant de lendemains meilleurs et se remémorait des joies qu'elle n'avait pas vraiment connues, mais qu'elle inventait pour ne pas souffrir davantage. Avec cette nostalgie des vieux de naissance, pour un passé embrumé d'inexactitude et l'espérance d'un avenir improbable, ma mère ne s'était jamais pris les pieds dans une racine. Sans doute qu'en poussant sa brouette, elle les évitait soigneusement, mais elle n'a jamais vécu là, tout de suite et maintenant. Faut croire que vivre l'instant présent lorsqu'il est trop difficile devient la quadrature. Après ces connexions que je voulais puissantes, je me suis senti vivant, tout aussi crétin mais vivant. Ma cheville gonflée et endolorie me faisait délicieusement souffrir. J'avais regardé la vie autrement et tout devenait limpide. Mon regard s'appropriait l'espace et l'espace m'appartenait puisque je l'étais y tout. Le plus rigolo dans l'histoire, ce qui suivit me donna raison, c'est que je n'avais plus peur de mourir oublié de tous. Car les racines servent à ça. Libérée, délivrée, j'avais toutes les raisons pour parcourir le vaste monde qui devenait mon univers à tout moment. Plus de raison de vivre l'apartheid pour ne pas aimer les endroits différents et les gens qui ne pètent pas pareil ou les créatures venues d'ailleurs avec des bassins différents. J'ai cessé la masturbation au profit de la pénétration et attendu les lendemains qui, de toute manière, n'existent pas tels qu'on les imagine. Suffisamment en paix avec moi-même pour partager, ici et maintenant. Tout simplement. Vincent était avide, François était cupide, Paul était violent, les autres jaloux. Et nous? Nous étions amoureux. À ce titre, nous ne pouvions vivre près d'eux. Les gens qui s'aiment sont trop beaux pour être aimés des autres. Les gens qui s'aiment ne génèrent que haine et envie. Ils sont la plaie ouverte dans les cœurs secs de tous les autres. Ils ne peuvent offrir que l'infini à ceux qui n'ont pour singularité qu'un espace sain, étriqué, clôturé et surtout sans intérêt. Le regard des gens qui s'aiment est insupportable aux autres, absous d'animosité, de la moindre agressivité qui pourrait laisser apparaître une quelconque faiblesse ou la moindre vilenie propre à désunir les hommes. Mais les gens qui s'aiment ont oublié tout cela dès qu'ils se sont regardés derrière les yeux. Ils se contentent de vivre sans souci du quotidien, sans préoccupation d'intendance, avec cette candeur, imbécile aux yeux des autres, qui rend con mais tellement heureux que c'en est indécent. Et voilà. Alors vous pensez bien qu'à force de nous faire agresser, nous avions choisi de vivre à l'écart de ces ingratitudes insignifiantes, mais chiantes, que nous percevions comme une perte de temps. Le temps que nous voulions, rien que pour nous, avait la particularité de brûler trop vite, de s'enflammer, s'embraser tels les feux d'artifice que l'on montre encore et toujours aux grands enfants qui ont cessé de rêver par eux-mêmes. Vincent avait donné un sens curieux à sa vie. Il accumulait encore et toujours. Bien sûr, chaque acquisition lui procurait des joies éphémères, parfois intenses. Il en tirait de menus bénéfices. Il souhaitait ardemment se voir grandir ainsi, au travers de ces choses superflues que certains pensent nécessaires. Il pensait parfois que son désir viscéral d'avoir lui offrirait un jour la paix. Il pensait que ses accumulations, ses successions de petits plaisirs, lui apporteraient bonheur et félicité. En tout cas, Vincent cherchait à s'en convaincre dès qu'il convoitait un bien. Pourtant, le propre de l'avidité en est l'absence de contour, comme un désir sans limite et sans fin, comme une myriade de flammes de bougies qui se consument pour s'éteindre faiblardes et qu'il faut sans cesse renouveler. La ploutocratie ayant de beaux jours devant elle, les Vincent fleuriront tant qu'il y aura des hommes. François, lui, observait la vie, ravi de ce monde de loterie, toujours prompt à croire le dernier qui avait parlé. Joyeux et bienheureux, il vaquait de déconvenu en déconvenu, tout en cherchant de nouvelles grandes et belles raisons pour conserver un optimisme à toute épreuve. D'une certaine manière, sa crédulité le protégeait, mais d'une autre, elle le condamnait à des rêves inaboutis et, pour finir, jamais satisfaisants. François voulait exister, seulement il était transparent, inodore et sans saveur. Celui-ci choisit après l'effacer de dernier choix dont on abrégeait les rancœurs de quelques billevesées à droite. François, rassuré, reprenait sa route avec bonhomie et un nouvel enthousiasme. Paul se réalisait dans le combat. Sa vie était dualité. Paul gagnait. Quand il perdait, seule la revanche à prendre le préoccupait. Au cours du temps, il avait développé et nourri une extrême violence, au propre comme au figuré. Le goût du sang, de la domination, quel qu'en soit le prix. Les blessures et les vexations aux autres étaient ses seuls moteurs, ses seuls plaisirs. Il jouissait de ses propres haines autant que de celles de ses adversaires. Paul n'avait pas que des ennemis, pour la vie. Violenter, fracasser, prendre des coups et en rendre, pas d'autre moyen pour vivre, une existence pleine. Paul était un sale con, pas un jour ne s'écoulait sans qu'il s'en réjouisse. Vincent, François, Paul et le reste de la population a crevé de jalousie, à attendre la mort en pleurnichant sur son sort. Voilà le monde immonde qui encercle les gens heureux, fiers de rester debout sur leur guibole. Voilà le reflet à supporter sans désespérer, en croyant encore à sa propre épingle dans ce jeu de dupes et de lâches. Mais ma mère, où m'as-tu fourré? N'as-tu pas vu cette merde qui cherche à nous museler? Cette médiocrité collante qui étouffe la plupart d'entre nous? Voyons, ma mère, était-ce bien nécessaire? Assez perdu de temps avec les autres, revenons à ce que nous étions devenus, car heureux nous étions. Ce simple fait mérite une explication pour les enfants que nous n'aurons pas, l'amour n'empêchant pas la lucidité. De toute manière, faire des enfants aux femmes que l'on aime, ça les abîme et ça sous-tend qu'il faudra les aimer aussi en mer. Nous n'avons pas voulu réfléchir à ça, en prétextant un autre avenir plus climatique que nous laisserions forcément à nos enfants. Le bonheur serait-il dévolu uniquement aux gens qui s'aiment, qui roucoulent en ignorant les congénères alentour? En voilà une belle question. Les gens qui s'aiment sont trop libres, sans autre besoin que l'autre. Esclavage que tout cela, me dit-on en aparté. Mais les gens qui s'aiment sont les mieux à même pour mener une enquête sérieuse. Ils sont les plus compétents pour répondre à la question « Pourquoi certains sont heureux tandis que d'autres pas ?» Les raisons bateaux répondant à la question sont nombreuses, en revanche, avariées parce qu'en général édictées par de tristes cires. Là, comme partout, la valeur de l'exemple reste primordiale. Chacun sa spécialité, le malheur aux malheureux, le bonheur aux heureux, et les raisonnements seront plus convaincants. Nous étions donc partis sur les routes, à travers le vaste monde, pour répondre à la question. En pèlerinage dans les lieux saints, en visite dans les lieux paisibles propices au recueillement, il était fondamental d'étudier au plus près ce phénomène à l'origine de tant de déséquilibres, tant de dépressions, tant de malheurs et tant de déchirures. Notre devoir était de trouver les racines du mal, comme des êtres heureux en quête d'élucidation. Vaste programme et source de déception. L'affaire étant sérieuse, elle ne souffrait aucun amateurisme et ne pouvait être confiée aux donneurs de leçons habituels, intéressés aux bénéfices ou rémunérés. Des gens comme nous, en revanche, abreuvés de bonheur et par nature positifs, étaient tout indiqués pour guider les malheureux, les sortir du gouffre, sécher leurs larmes. Oui, ça semble du coup un peu trop optimiste. Durant ce long voyage aux sources de l'essentiel, nous avions été frappés par la capacité de tous à se faire une idée sur le bonheur. Ce qu'il leur manquait, ce qu'ils devaient faire, mais surtout ce qu'ils voulaient que l'on fasse, ce qu'ils en attendaient. Tous, de manière plus ou moins directe, en voulaient aux puissants. À cet égard, l'échelle varie en fonction du besoin de se faire plaindre. Et à leurs activités coupables. Tous pensaient que les entraves qu'ils subissaient n'étaient pas de leur fait, mais de celui du prince, qu'ils enviaient, dont ils auraient bien pris la place. Tous pensaient que les règles édictées par d'autres étaient inappropriées et ne pourraient jamais les rendre heureux. Bien plus grave, la plupart confondaient plaisirs menus et variés avec bonheur. Tous déconfits, nous leur avions dit alors qu'être ou ne pas être ne dépendait sans doute que d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas forcés de jouer avec les mêmes règles ou de souscrire aux figures imposées. De leur fait, ils pouvaient aussi, quasiment dans tous les cas, choisir. Pourtant, ils prétendaient ne pas l'avoir, le choix. Tenaces, nous leur avions dit qu'ils devaient cesser d'halluciner un bonheur imaginaire créé par d'autres, de croire que le bonheur est une partie intégrante du panier de la ménagère et du niveau de vie. En d'autres termes, remuez-vous mes chéris. Alors nous nous étions fait insulter copieusement. J'avais même eu le droit, étant le mal de service, à quelques mandales et des coups de poing dans les yeux. Dès lors qu'il s'agit de mettre le nez dans le caca et les mains dans le cambouis, il n'y a plus personne, ils sont partis. L'être humain devient souvent violent, au mieux de mauvaise foi. L'incapacité au changement et les trouilles qu'ils induisent sont les actes fondateurs de nos laisser-faire, eux. Ces hommes n'avaient pas la foi. Leur absence de mysticisme les rendait vulnérables. Ils nous désespéraient de jour en jour. Nous leur ressassions pourtant, « Si vous ne croyez pas en vous, qu'attendez-vous de vous ?» Ou, plus pragmatique, « Comment pouvez-vous penser que d'autres puissent être une solution à votre bonheur ?» Les petits humains pleurnichards en avaient cure et rêvaient à d'enfantins mirages. Avidité, cupidité et tartine beurrée de lieux communs. Nous serions très ennuyés de toucher le gros lot. Pourquoi faire? Pourquoi le faire? Tant il est ennuyeux de laisser sa vie à un hasard, heureux ou pas. Alors que, pas du tout. Bien au contraire, le fric était lié au rêve comme un herpès. Irrémédiablement, sans une possible guérison définitive. Il traînait des mécanismes en eux et nos conseils n'avaient pas d'écho. Il voulait bien notre joie de vivre, mais sans notre vie. trop frugal, pas assez d'éclat, personne pour en officialiser la valeur et l'intérêt. À quoi bon le contact ? Ils avaient bien failli nous faire sombrer dans une sinistrose irréversible. Nous nous étions alors écartés de leur voie et les avions laissés s'enfouir en terre et prendre racine au cœur de leur désespoir. Un peu déçus mais toujours convaincus, l'un comme l'autre qu'il faut lever à son petit doigt quand le nez vous gratte, mais quand c'est pour gagner de l'argent, il vaut mieux réfléchir plutôt deux fois. Nous avions choisi une vie heureuse et jamais elle ne serait accessible au plus grand nombre. Évidence qui nous renvoyait tout droit à notre connerie. Pour changer le monde, faut être con. En conscience, nous avions opté depuis des années pour une simplicité, de la bienveillance et une frugalité qui avaient agi comme des fragments et nourri notre amour pour la vie autant que celui que nous nous portions. Cette simplicité que nous avions choisie et qui s'était imposée à nous comme une solution était devenue notre chemin, notre seul chemin, le seul que nous trouvions satisfaisant, et ce, en dépit de nombreuses expériences. L'été dernier, Firmin nous avait dit que vivre pleinement n'était pas un choix, mais un devoir vis-à-vis de nos mères. Elle nous avait mis au monde pour cela et elle n'attendait rien d'autre. Nous voir vivre notre vie en entier. Gérard, le frère de Firmin, nous avait dit être en adéquation avec son cœur, sa tête et ses cinq sens. Sans avoir à privilégier l'un ou l'une au détriment de l'autre. À l'instant T, il aimait cette formule et en abusait. Parce que avant c'est mort et après ce n'est que peut-être. Le calme et la sérénité, la tranquillité des gestes et le bon fonctionnement en toute conscience de nos simples. Simple comme ressenti premier, sentir, toucher, entendre, voir, parler, penser, aimer. C'est pourtant simple, disait-il. T'es pas très clair, le chamaillait Firmin. Je me comprends, répondait Gérard. Que de joutes et de verbiages pour dire que le ciel est bleu ou gris, mais qu'il est joli quand tu le regardes, concluait Firmin, avec un rot au parfum d'aligot. Nous avions croisé ces deux hommes au puits Crevasse, lors d'une randonnée. Nous en étions friands, les frères aussi. Les longues itinérances à pas mesurés qui laissent le temps à l'esprit pour s'envoler au loin, et puis nous revenir pour se cacher, garder une place au chaud parmi ses potes neurones. En peu de mots, nous nous étions apprivoisés tous quatre, comme c'est parfois le cas quand les écoutilles sont ouvertes. En quelques phrases, nous avions bâti ce qui pouvait être à partager et ce qui ne le serait pas. De longues promenades, de longues discussions pour rompre les bâtons et éviter leurs coups. Les frères vivaient de peu et de gestes simples, bien mieux que la plupart d'entre nous, à force d'être vrais et de n'être que cela. Leur regard était curieux, gourmand, presque amoureux, parfois indifférent, mais jamais envieux ou méprisant, ce qui en fit nos amis, ou tout du moins ceux que nous nommions les fréquentables. Au décès de leurs parents, ils avaient repris les terres et s'en nourrissaient, bien suffisamment et sans empoisonner personne. Au dire des nombreux touristes qui leur permettaient de vivre chez eux, c'était un plaisir de s'empiffrer de leur fromage et de les connaître. Car les malins savaient s'y prendre avec les breakers surmenés. Ils faisaient bien la différence entre une relation marchande et un rapprochement fécond choisi. Été comme hiver, profitant des saisons touristiques, ils pouvaient satisfaire leur libido de quelques aventures. Le reste du temps, leur slip était en berne. Ils s'occupaient les mains ailleurs. Sur son lit de mort, leur mère leur avait fait promettre de ne s'atteler avec une autre que par amour. La Léone avait trop souffert de ce manque. Elle s'était dévouée à son homme qu'elle appréciait mais qu'elle n'aimait pas assez fort pour qu'elle puisse être heureuse. Les deux frères s'étaient fondus dans le décor. Ils n'espéraient rien, n'attendaient rien de spécial, ne rêvaient pas de veau d'or ou d'eldorado, mais jouissaient sans entrave de tous les instants. Ils aimaient la nature, le cœur léger et pur sans se soucier ni du bien ni du mal, écoutant leur instinct. Firmin, comme Gérard, avait en eux cette prédisposition au bonheur qui suscite tant de jalousie. Leur mère rude et aimante les avait modifiés génétiquement, par petites touches, distillant sa philosophie avec intelligence. Ils apprirent ainsi qu'être un cutéreux borné n'est pas une fatalité, que singer les gens des villes n'en est pas davantage une, et que s'ouvrir à la vie ne demande pas d'endroit particulier. Les deux fils bénis étaient même partis parcourir le vaste monde plusieurs années, histoire de voir un peu comment c'était là-bas, derrière la ligne d'horizon. Puis de retour, comme ils n'avaient pas rencontré de millionnaires heureux, ils s'étaient dit « le bonheur est dans le pré ». Pour eux, les nantis respiraient mal, trop occupés d'occupations d'importance et trop préoccupés par leurs nombreux biens qui, au final, les rendaient malheureux ou, tout du moins, suspicieux, craintifs et quelquefois méchants. Se rendant compte que les gros tas de problèmes demandaient des gros tas de solutions, ils firent des petits tas faciles à résoudre. Consciencieusement, avec amour, s'agiter 47 semaines et se ressourcer 5 semaines devenait dès lors une aberration quand on vivait au bord d'une source. Simplicité, frugalité, curiosité et poil au nez furent érigés en mode de vie. Comme c'était devenu à la mode, plus personne ne se foutait de leur gueule avec les grands airs de circonstance et la condescendance qui sied aux belles personnes. Les pots de cul qui se gaussent et se satisfont d'eux-mêmes sans un regard pour leur interlocuteur. Bref, sans pépin, les frères étaient heureux. Ils avaient fait de chacun de leurs gestes, de leurs souffles, de leurs mots une affaire importante, et donc un acte amoureux. À part nous, il y avait donc des gens qui vivaient heureux auprès de leurs arbres et ne les quittaient plus des yeux. Nous en étions réjouis. Restait à souhaiter que d'autres, moins chenus, prennent la relève en ne laissant à personne le soin de vivre à leur place ou de créer à leur place. Un nouveau monde qui se choisirait d'autres fantaisies, d'autres devoirs minimums et n'accorderait pas de crédit à ceux qui en proposent. Une renaissance sans consumérisme, un retour à l'essentiel. Mais vous êtes cons ou quoi? Revenez aux vraies valeurs. À force d'entendre ça, on a fini par se barrer pour assouvir, si je puis dire, notre désir de frugalité. Nous n'avons plus peur ainsi, libérés du reste. Et vous? Vincent, François, Paul et les autres, qui portaient en eux ce que nous avions tous et qui l'exprimaient sans en tirer le moindre bénéfice, sans en profiter, sans vivre mieux et davantage, sans un plus de bien-être, continueraient à se pourrir la vie, celle des autres, et nous n'y pourrons rien. Plutôt que de juguler ce qui les détruisait, ils en lâchaient les brides. Ils n'avaient, à la longue, plus aucun courage, aucune force pour changer le cours. Et nous, pendant ce temps, nous avions endormi tout ce dont nous étions capables de faire pour le malheur de tous, car il y a interdépendance en tout et pour tout. Nous avions sublimé le bon côté de notre pièce et en étions satisfaits. J'avais préparé un repas de roi avec que dalle. Nous en avions mastiqué et apprécié chaque bouchée. Tu avais regardé la mer et les récifs au loin où se brisent les lames. Tu avais respiré le vent et humé ses odeurs marines. Puis tu avais posé ta main sur la mienne en souriant. Tout simplement.
Dichotomie. Sabine n'était jamais d'accord avec lui. Toujours rebelle, jamais satisfaite des choix qu'il lui imposait. Quand il se trouvait une âme sœur avec qui il aurait pu établir une relation pérenne en toute confiance, Sabine gâchait tout. Elle semblait y prendre un malin plaisir. Au mieux, elle s'employait à un service minimum, mais le plus souvent elle renonçait à la tâche, histoire de lui foutre la honte, de provoquer de flasques instants pour les moins embarrassants. Ce que Sabine souhaitait, c'était des femmes à un brin vulgaire avec d'énormes nibards en plastique, une bouche gourmande surdimensionnée et humide, des cuisses rondes et pleines, un cul rebondi généreux et haut placé, mais aussi une voix rocailleuse et profonde, un regard racoleur et lubrique, une bestialité sans chichi, prête à toutes les cochonneries les plus insolites. C'est alors qu'elle bondissait joyeuse, infatigable, insatiable. Pendant des nuits entières avec une énergie démente qui, chaque fois, l'étonnait. Le pouvoir qu'avait ce truc accroché à son corps le fascinait autant qu'il l'effrayait. Cette force insoupçonnable, pour lui qui n'avait pas eu la chance d'avoir eu une éducation religieuse qui l'aurait avisé des dysfonctionnements possibles, le sidérait à chaque fois. Il s'était accommodé, tant bien que mal, de cette libido contraire aux bonnes mœurs, s'était contraint à de prudes relations platoniques et se contentait de discussions bon enfant avec les femmes qui lui plaisaient sans l'ennuyer. Mais sa bite ne les appréciait pas. Sabine voulait de la cochonne, rien que de la cochonne. Pauvre bête à qui l'on prête des envies qu'elles n'ont pas forcément. De temps en temps, magnanime, il accordait une récréation à Sabine, à contre-cœur. Car même si l'acte en lui-même ne lui déplaisait pas forcément, la suite était toujours catastrophique. Parce que, après l'acte répété, il s'ennuyait comme un redoublant au premier trimestre avec ce sentiment d'un déjà entendu. En respirant calmement, il supportait d'imbéciles litanies jusqu'au petit matin, guettant l'aurore de la délivrance. Mais il s'y faisait, s'en accommodait faute de grive, jusqu'au jour où il rencontra ce désir irrépressible qui fait de l'homme un petit être sympathique et intéressant. Ce désir d'un tout, tout de suite, avec l'envie qui brûle. Il n'écouta que son élan et fit de son ardeur une priorité en passant outre la volonté de sa bite. Mais à l'instant crucial, elle se mit à bouder dans son coin, molle comme une courge trop mûre, raplapla pour avoir trop servi le vice et la luxure, inapte et inadaptée pour cette relation trop sincère, trop engageante. Et depuis, malgré ses nombreuses tentatives, il ne peut pas faire l'amour à la femme qu'il aime. Un jour peut-être. Joie que depuis vieux, jamais présent ne fut si riche de son passé oublié. Immobile et tranquille, ne veut plus bouger d'un cil, d'un iota, d'une pensée. Car j'ai pris ma mesure. Je la chante en hurlant, bien fort à ceux qui m'étouffaient. Les sens du pratique, les voix de la raison à qui je dis « Je rêve encore, mes papas. Pitié, attendez demain, quand je serai bien grand, pour me mettre à l'ombre en pleurant. Je crierai en grinchant, comme vous le fîtes avant. Trop tard, il est déjà demain. » L'été 2028. Il avait été d'une douceur exceptionnelle, sans forte chaleur, avec ce petit vent, un peu frais le matin, qui caractérise notre région. C'était la première belle saison que je passais seul, je veux dire sans mon épouse. Elle s'était éteinte l'hiver précédent, un peu à la manière d'une chandelle face à un courant d'air trop violent. Elle s'arquebouta un bref instant pour me défier, la nuque raide, puis s'échappa d'un souffle du monde des lumières. Je ne l'ai pas pleuré, je ne l'aimais plus. Ma vie à raser ses côtes devenait une pâle comédie. Les jours appelaient les jours avec lenteur. La tristesse des routines recroquevillait mon peu d'énergie. Nous donnions dans la caricature. Notre image du couple uni pour le meilleur et le pire frisait la farce. La bonne vieille plaisanterie réservée à ceux qui s'arrogent le droit de la raison, des convenances, du mouton et du devoir. Durant 40 ans, Rosa m'avait guidé sur cette route peuplée de démons que je ne voyais pas, trop aveuglée par mes rêves imbéciles. Elle m'avait montré jusqu'à m'en convaincre où était notre chemin. Je n'avais pas le courage de lui résister, alors je l'ai cru. J'ai cautionné ce guide, d'abord en l'admirant et en l'aimant, puis en m'en écartant, avec la sauvegarde de mon âme pour seule ambition. Ces dernières années, je ne pouvais plus la supporter, plus la toucher, plus l'entendre. La veiller pendant sa longue maladie fut une souffrance. J'attendis sa fin en sentant déjà qu'elle serait d'abord et avant tout ma propre délivrance. L'été 28 m'a apporté l'allant, attisant ce feu couvant en moi depuis des décennies. Agnès, mon unique petite fille, est venue 2 longues et bonnes semaines. J'ai puisé sa force, sa soif de vivre. Pour m'en repaître, après son départ, rebondir, revivre au petit matin mes rêves absurdes, disait la défunte, et que vive l'octogénaire avant qu'il ne retombe outre. À présent, je me lève, pas trop frais mais disposé à l'aventure d'un jour neuf. Je souris au petit déjeuner, je dis bonjour au soleil, salue d'un geste un oiseau ou chante mes louanges aux arbres. Agnès m'a donné tellement de bonnes raisons de m'y mettre enfin, quels que soient les obstacles apparents, qu'un sang nouveau abreuve mes impulsions. Fort de cette irrigation nouvelle, même si je n'ai pas encore fait le premier pas, je me sens, je suis, et je m'en réjouis assez pour meubler mes journées. Je connaissais des limites à ne pas franchir, je savais qu'il me serait difficile de revenir en arrière, de faire comme avant. J'avais peur de passer la haie tout en brûlant de le faire. Rosa et les autres m'avaient juré qu'une fois franchi la limite, qu'une fois poussé la porte du fond, ce serait une chute insensée dans un trou sans fin, un gouffre de désillusion. Je me suis donc appliqué, tout au long de ma vie, à ne pas prendre de risques malgré l'appel qui déchirait mes tripes. Agnès, du haut de ses 31 printemps, m'a ri au nez. À quoi bon la vie dans de telles conditions? À quoi riment ces interdits que te fixèrent et te fixent en dehors de toi? Tu n'as plus d'excuses à faire valoir. Je reviendrai dans quelques mois et gare à toi si tu n'as pas commencé à vivre ta destinée. » L'année 1958. À 10 ans, je savais déjà ce que je voulais faire, mais je n'osais pas le dire. Je craignais un père. Je ne doutais pas de son affection. Je savais qu'il me pardonnerait toujours, mais j'étais si effrayé à l'idée de le décevoir qu'il me fut impossible de lui donner mon avis. J'étais cloué, étouffé par la peur de faire mal. Pour moi, il était le modèle impossible à suivre, la référence inventée sans pouvoir l'imiter, ni avoir l'outrecuidance de le faire. Il était le maître absolu de ma destinée. Je n'imaginais d'ailleurs rien sans sa bénédiction, sans un aval, un signe de tête approbateur, un petit geste affectueux avec ce zeste de condescendance qui en faisait un être supérieur. Une sorte de Dieu placé si haut que le moindre de ses regards était suivi les yeux fermés. Lui s'en arrangeait fort bien de cette dévotion, et que le modeste vermisseau qui lui devait la vie soit apeuré l'amusait. Parfois, nous avions de longues discussions que je voulais complice étendre, mais qui n'en avaient que l'apparence. Des discussions à sens unique, durant lesquelles je confirmais les réponses que ces questions induisaient. Je l'écoutais béat, admirant cet homme paré de tout. Ne lui cachant point, je buvais la moindre de ses paroles. Il se levait ensuite, conscient du devoir accompli, persuadé d'avoir été à la hauteur de la tâche. D'une tape un peu rude, sorte de bourrade virile entre hommes, il concluait son long monologue, satisfait, d'avoir échangé quelques idées avec son fiston. Cette année-là, je connus mes premiers succès scolaires. Un premier prix de dessin et un accessit de musique gratifièrent mes efforts. Je me souviens de cette remise de prix quand, rouge de plaisir, jubilant à en baver, je tendis les bras pour recevoir d'un coup deux récompenses sous un tonnerre d'applaudissements, sous son regard. Cette année-là, je connus ma première grande déconvenue. Car après mon succès public incontestable, une fois de retour à la maison, mon père m'a dit « J'espérais de ta part autre chose, mon fils. Quelque chose de sérieux, d'un peu plus consistant. » Les grandes vacances furent un calvaire. Je devais travailler mon orthographe, ma grammaire, et revoir les grands principes qui firent la gloire de ce cher Euclide. Je devais ne plus perdre de temps en vaine discipline pour me consacrer à mon avenir et faire en sorte qu'il ne soit pas approximatif. Je devais comprendre la gravité de la vie. Je devais mettre à profit mes vacances pour amorcer un virage à 180 degrés. Je devais tant et tant qu'il m'apparaissait impossible de satisfaire un jour mon créancier. J'ai fini par comprendre qu'à chaque instant, l'oisiveté et le laisser-aller pouvaient m'entraîner sur de périlleux chemins de traverse. Et j'ai renoncé à mes matières fétiches pour rester concentré sur l'essentiel. D'ailleurs, il me disait « Tu dois aller à l'essentiel, le reste ne doit pas te distraire. » Je devais. Le simple fait de se baigner par un bel après-midi donnait lieu, dès le souper, à une leçon sur la portance ou sur la densité. Le simple fait de rire pour une histoire idiote incitait l'autre à m'expliquer l'humour et à m'assommer d'histoires au deuxième degré que je ne comprenais pas mais qui devaient me faire rire. Pas trop aux éclats, plutôt sourire. Cette année-là, j'appris qu'il était possible de détester son idole, de la brûler, et que c'était facile. Pourtant, comme pour tout, il y eut des signes avant-coureurs. Le Noël d'avant, par exemple, quand il m'offrit à la place d'un coffret de peinture pour barbouiller un mécano XXL pour construire, j'aurais dû comprendre que cet homme, qui se disait mon père, ne roulerait jamais pour moi, son fils chéri. J'aurais dû comprendre que je n'étais qu'un pion qu'il manipulait pour jouir de son pouvoir. Cette année-là, il décida, de concert avec ma terreur, qu'il me faudrait une filière scientifique. Il était persuadé de m'avoir laissé choisir. J'avais dit oui, sans trop savoir. Que pouvais-je faire d'autre? En quelques minutes, il aurait balayé tous mes arguments d'incertain, toutes mes hésitations de petit mec qui ne sait pas encore tout. Je l'aurais détesté davantage. Pour m'avoir violé l'âme. Pour m'avoir tué l'innocence, assassiné la candeur. Que pouvait faire un petit garçon de 10 ans, sans grande force de caractère, pour faire comprendre à de sages parents bien rangés dans leur boîte à principes qu'ils ne savaient peut-être pas grand-chose des choses, mais qu'ils se sentaient d'abord artistes. Autant convertir un inquisiteur à la non-violence. Cette année-là, je me mis à haïr les études, ce qu'elles représentaient. Cette année-là, j'appris à détester la vie, cette tragédie insensée qui m'empêchait de faire ce que j'aimais. J'appris à détester cette chose sérieuse et si grave. Moi qui pensais dans mon cœur d'enfant qu'elle était rigolote, joie, comédie, éclat de rire, rêve. Mais je n'étais qu'un enfant. Je ne connaissais rien de rien. Cette année-là, j'appris à exécrer un peu tout le monde. Tous ces méritants qui prennent leur vérité pour axe du monde. Tous ces frustrés qui régissent leur vie comme une forteresse imprenable. Tous ces salauds de mauvaise foi qui ne donnent que quand ils reçoivent. J'appris à devenir comme eux, puis à trouver cela pratique, plus confortable. Pas se poser de questions sans réponse. Devenir partie prenante du rang. N'être que le rang, et m'y tenir. Depuis ce temps, j'ai vécu dans mon ombre, les épaules un peu voûtées par mes lâchetés, en larmoyant parfois, et puis me ressaisissant, sans conviction, sans entrain, vaincu. Mais avant de sombrer totalement, j'ai quand même eu droit au printemps. Printemps 1969. Ça m'a fait du bien d'avoir 21 ans. Du bien cette porte claquée à lui péter les gonds et ce cri au tyran. Plus jamais! Ma mère pleurait de vraies larmes tandis que son mari jouait les indifférents. Mais je savais bien quelle souffrance il endurait. Lui le réaliste, le juste, le droit. Il avait nourri en son sein l'enfant parjure, le félon. Lui s'était trompé. L'admettre était un supplice. Quel régal de le voir branlant, prêt à s'effondrer comme un château de cartes. L'œil mouillé, la lippe tombante. Le doute s'était installé et j'en jouissais. Je le voyais enfin faillible. Ce fut la seule fois, ce fut mon seul festin cruel. Je ne suis pas taillé pour la haine et je pardonne avec le sentiment de ne pas pouvoir faire autrement. Je l'ai revu par la suite. J'avais changé un peu d'angle, lui avait vieilli. Que dire d'autre? En plaquant tout, du jour au lendemain, j'ai d'abord eu l'impression d'être libre. Puis, le camarade qui m'avait hébergé, me trouvant encombrant, gênant, indésirable. Comme je n'avais aucun projet, que mes études interrompues promptement ne me donnaient rien d'immédiat, j'optais pour la route du sud. Une amie m'avait parlé d'une communauté en Lozère, pas très loin de Chanac, au bord du Lot. Un endroit où je pourrais attendre l'été, entouré de peace and love, mais surtout de love. Communauté. Mes maigres économies ont nourri les 23 membres pendant quelques jours, et après j'ai fait comme les autres. La Manche aux alentours. Pas vraiment le choix, les cultures ne donnaient rien. Une saleté s'était collée sur les patates, et comme notre gourou ne voulait pas entendre parler de traitements chimiques, nous avons mangé les feuilles comestibles et chié abondamment. Les deux chèvres pétaient la forme et nous fournissaient en lait bio, mais nous devions partager. Et pas grand-chose à distribuer pour beaucoup, ça voulait dire « Bonjour madame, t'as pas une petite pièce ?» À part les contingences matérielles, le reste allait bon train. Un peu de spirituel et les sens en éveil. La vie se regardait couler. Les principales préoccupations du groupe étaient de s'arranger pour n'en avoir aucune. Pas davantage d'obligations, pas davantage de contraintes ou tout ce qui aurait demandé un effort jugé disproportionné. Il s'agissait en fait de réformer le monde en profondeur, à partir d'un noyau d'irréductibles sincères et motivés. L'essentiel du temps était employé à la méditation. Elle seule était à même de clarifier toutes les situations. Elle seule nous guidait sur le chemin des bonnes intentions. Elle seule raffinait nos impulsions anarchiques et nos pulsions primaires. Le gourou nous y aidait en montrant l'exemple. S'éveiller et devenir des êtres luminescents en condition d'aimer, d'inciter à le faire sans distinction. Vaste programme et tendre certitude, rude tâche. Nombreux pétards que nous fumions tout au long de la journée pour nous mettre en condition. Faire preuve de compassion pour le reste du monde. Le cannabis amenait chez certains de folles hilarités, mais pas chez moi. Moi je bandais à tout bout de champ. Tant pis pour la compassion. Probable manque d'entraînement compensé par un autre pétard encore plus conséquent et une autre érection qu'il était tout autant. Mais la solidarité était telle qu'une sœur de la communauté s'empressait de régler mes problèmes avec Priap. De ce point de vue licencieux, je ne pouvais pas me plaindre. Filles et garçons s'aimaient sans chichi et à défaut coïtaient. Nous passions ainsi de longues nuits à produire de l'énergie positive comme de longues siestes pêle-mêle. Plus besoin de regarder sous les jupes des filles, elles n'en avaient pas. Ce qui facilitait, disait le gourou, la méditation. Ce qui éradiquait, disait le gourou, les mensonges du corps. Blast it. Un beau matin de mai, tandis que grondait la révolte dans la capitale, un voyageur batave nous rendit visite. Il passa quelques jours dans notre famille recomposée. Parmi les jupons, il participa à quelques fêtes du slip avec une vigueur exceptionnelle, puis poursuivit son chemin. Avant de partir, il nous laissa plein de monstres verts, un acide au long cours très apprécié des randonneurs. S'ensuivit une semaine de félicité à se faire bouffer les neurones. Une période bénie, à nul autre pareil, que je conseillerais aux enfants d'aujourd'hui si la vie n'était pas si longue, si demain n'était pas, parfois, le problème. Une fois les réserves de voyage épuisées, tout le monde s'est remis au pétard, tous heureux de retrouver nos marques. Moi le premier. Je sentais bien l'influence des tripes sur ma volonté, je savais que tôt ou tard, ils m'emporteraient bien loin. Au pays d'où l'on ne revient pas sans aide. Libéré du démon paternel, c'eût été stupide de troquer un fourchu pour un autre. Une rupture de stock qui tombait bien. À la fin de ce printemps insouciant et joyeux, je me suis remis à penser, ou plutôt, je me suis autorisé à penser, après des années d'interdit, à la peinture. Les moues méprisantes de mon père ne me poursuivaient plus, me lâchaient. Je pensais de nouveau en couleur. Je voulais jaillir de l'intérieur pour m'écraser sur une toile, impudique, obscène ou bien tendre, si calme. N'avoir qu'un seul propos et une armada de pinceaux pour seule vocalise. Que je puisse enfin chanter les nuances forgées par mes douleurs. Mais une souffrance à ne savoir que faire, à trembler, sangloter, douter, une souffrance à déchirer mes certitudes, à permettre de terribles angoisses, une souffrance qui attisa mes peurs. Du fond de ma mémoire, elles surgirent et me firent douter. Pourrais-je donner naissance aux formes? En aurais-je le talent, les capacités? Comme il me fallait savoir que le mal qui me rongeait ne cassait pas, j'ai dit un beau matin mes intentions d'essayer. Confidence à ma voisine de droite qui m'a souri, à celle de gauche aussi, et puis à tous. Le souffle ainsi jeté, je me suis senti calme, d'un coup, en accord parfait, sous les applaudissements. « Hurrah !» a fait le cocon, toujours partant le cocon, marre de se faire chier à méditer sur sa vie plutôt creuse. Mais ce blanc-seing m'a fait du bien. Je me suis dit, t'as plus d'excuses, c'est le début. Plusieurs semaines à faire la manche passèrent, afin de réunir suffisamment de piécettes et, un jour de grande défonce, je me mis à la recherche d'un marchand pour les barbouilleurs. Je courus vers mon destin sans me douter de ce que le sort m'avait vraiment écrit. Au village, assise sur le rebord de la fontaine, le sac à dos à ses pieds, prête aux tripes les plus fabuleux me suis-je dit, elle jouait de la flûte, comme pour moi. L'impression d'être le spectateur privilégié, l'oreille qui comprend sa musique, le complément et l'équilibre indispensable à toute harmonie. Elle m'a suivi, mais les autres ont voulu me la prendre. J'étais jaloux. Pour la première fois de ma vie, je ne voulais pas partager. Qu'un autre que moi puisse la toucher, loin de m'exciter comme à l'accoutumée, m'horripilait. J'ai quitté la communauté pour la suivre, derrière sa flûte, comme un rat, tout droit vers la noyade au pays du Gruyère. Sur le moment, je prenais son instrument pour un symbole fort, symbole d'une histoire en devenir qui serait un renouveau, une quintessence. Enfin, je me complaisais à le croire. En réalité, j'étais guidé par ma bite. Cet homme n'a aucune volonté. Le premier trou m'a mené sous un édredon de plumes un peu lourd dans la maison familiale de la belle à m'endormir. Le deuxième trou me téléporta chez Retroussemanche, un bon maître qui donnait du travail aux vauriens, comme si ce genre d'activité pouvait être offerte. Mais il le fallait. C'était mon devoir de subvenir pour devenir. « Tu comprends, me disait la pauvre Emmeline, un homme qui ne possède rien n'est rien qu'un moins que rien. » Et j'ai obéi, bien que je pensais l'exact contraire. Le troisième trou ressemblait à une chaîne interminable, plus ou moins lâche en fonction des besoins de la Suisse. Le stylo plaqué or du banquier voulait me donner le goût des belles choses indispensables à l'homme moderne, mais ça a raté. À force de me fouler les chevilles sur la route trouée, j'en ai eu marre et j'ai trouvé, par un curieux hasard, Rosa pour me sauver des vides et mes Noëls se passèrent dans les ronds. Ma nouvelle tutrice m'amena rondement sur le chemin qu'il faut suivre, pendant 40 ans. Au début, j'ignorais que les ronds, c'était pire que les trous. Avec un rond, il est impossible d'être ailleurs qu'au fond. Il suffit de le faire rouler. Et Rosa savait y faire. Décidément, cet homme n'a aucune volonté. Novembre 2028. Les premiers frimas m'ont cloué au lit. Dommage, je m'étais mis dans l'idée qu'il était temps. En réalité, c'est Agnès qui m'a secoué par mail interposé. Alors, dès que je vais mieux, je fonce. Décembre 2028. Ça va de plus en plus mal. Je suis toujours alité. Et depuis 15 jours à l'hôpital. Il semble compatir un peu trop lorsque je tousse, que mes quintes arrachent ma gorge en feu et que les remèdes multicolores que je dois avaler ne font guère d'effet. Le regard peiné m'inquiète. Je me recroqueville en tremblant sous mon drap trop rêche, comme un petit garçon terrorisé à qui l'on annonce la fessée du siècle. Tout tremblant, glacé, piteux, inapte à la moindre protestation. Ai-je jamais protesté pour quoi que ce soit? Je veux dire à l'instant précis où il fallait le faire. Le peintre vivra dans une autre vie. Un jour, peut-être. Demain, je m'éteindrai, comme ils disent pudiquement, pour ne pas dire mourir. Je sens que c'est demain le bon jour. Ne me demandez pas pourquoi, je le sais. Je m'éteindrai sans ressentiment, et pourtant, là encore, je devrais en avoir. Je m'éteindrai sans jamais avoir osé. Le miroir. Il me renvoie l'autre image, celle que je voulais invisible, que mon esprit gardait dans un coin en souhaitant l'y laisser. Cheveux rêches en bataille, tempes blanchies, yeux délavés inexpressifs, traits mous et fatigués, peau flasque presque adipeuse, mains tavelées, mâchoires qui s'affaissent imperceptiblement, yeux qui sourlent de fines ridules, menton qui tire vers le haut avec insistance et le besoin orgueilleux de garder un port de tête altier. Un homme et sa vieille tête. Le corps est avachi. La panne se décline en bonds successifs. Déliquescence de la molécule, insulte à l'harmonie. Quant à l'intérieur, pas bien chouette. Ça rote, ça pète, ça ressort par tous les pores. La bouche aussi, haleine de rat mort. Et cet homme a trahi, s'est parjuré, laissé aller, a vendu son âme, pratiqué la délation. Le tout avec la candeur imbécile du devoir accompli, avec cet air du sens commun qui donne une raison au pire comportement. Parfois je fais deux colonnes, celle des plus et celle des moins. À 50 ans, j'ai encore beaucoup de place pour la première et pas assez pour la deuxième. Si j'avais un tant soit peu de lucidité, je m'immolerais immédiatement en place publique, mais je n'ai ni le courage ni la force de mes 20 ans pour le faire. Mes projets oubliés dans un coin, mes certitudes rassurantes envolées, je devrais me détacher de cette misérable vie en soupirant. Mais je m'y accroche en geignant, espérant sans doute des jours meilleurs. J'aurais pu faire preuve d'un peu d'humilité, ne pas être victime de mes ambitions, mais, même ça, je n'ai pas su faire. Je me suis accroché à des chimères qui, je le croyais, donnaient un sens profond à ma vie. J'ai accumulé des piastres en exerçant mon pouvoir sur plus petit que moi. Je n'ai pas su à temps que je pouvais être sans avoir. J'ai comme l'impression qu'il est trop tard. Je me croyais si beau, me voici réduit à regarder derrière et ne rien y voir de bien reluisant, à regarder ma vie qui a perdu sa verdeur matinale, à regarder mes manies qui finissent par m'agacer, à regarder du rien, du dérisoire. Je me croyais profond quand je devenais con. Serais-je devenu enfin lucide? Non, tu n'es pas encore jeune. Ta vigueur n'est qu'un souvenir. Le souffle du temps t'a étalé comme une vieille crotte. Te vautrer dans d'académiques certitudes ne changera rien à l'affaire. Ton triomphe reste un rêve de jeunesse. J'attendais pourtant l'âge adulte avec la candeur imbécile de l'inexpérience et le désir de devenir un personnage qui compte. Je nourrissais de grandes ambitions. Mes yeux portaient au loin leur lueur orageuse, tout en grandiloquence. Mais je ne savais pas encore que mon désir de devenir obérait ma jugeote. Véritablement, je n'ai fait que suivre les pas de papa, au prix de grands sacrifices, car pour s'assurer un destin somptueux, il faut en faire. Ignorer les filles et se contenter de forniquer avec. Dormir moins, travailler plus. Je cesse l'énumération que tout le monde connaît. Toujours est-il qu'en respectant scrupuleusement les préceptes de la réussite, ma jeunesse s'est écoulée avec une lenteur désespérante. Je me suis fait chier dans mon coin. J'avais beau mastiquer le poireau de rage régulièrement, rien n'y faisait. Je m'emmerdais. Les autres riaient et moi je trimais. Mais j'avais bon espoir car, c'est bien connu, après le pain noir vient le pain blanc. Je sais à présent que le pain complet, c'est plutôt mieux pour la santé. Comme quoi, je n'étais qu'incomplet. Avant que d'être quinquagénaire, j'ai connu une trêve. Elle m'a permis de découvrir d'autres vérités que de riches parents épatants m'avaient eues. Il s'agit des autres, de leur existence. Élève officier, j'ai pu m'apercevoir qu'ils n'étaient pas là que pour le décor ou pour mon usage. Je les ai découverts, ces méprisables premiers degrés. C'est « ça ne va pas très loin », c'est « pas bon à grand-chose » et tout ce menu posé là pour nous servir. D'ordinaire, pour éviter les problèmes, il faut garder une distance de sécurité, mais là, dans ce contexte, j'ai dérogé. J'ai même eu la faiblesse de les apprécier. Parfois, plus que les autres. Les castés sur mesure et les nés dans des chaussons m'ont, pendant cette période, moins attiré. Père et mère, écoutant les portraits quasi dithyrambiques que je dressais des ancillaires, n'ont pas trouvé ça drôle. La crise d'adolescence tardive ne les a pas pour autant inquiétés car ils avaient des arguments imparables pour me convaincre. Tant que tu auras cette mentalité de parjure, n'attends rien de nous et si tu repasses le seuil de cette porte, fais-le avec dignité. Ainsi fut dit en toute ambiguïté, avec ce fameux souci d'équité qui caractérise le bien à propos. Moi, j'étais plutôt content d'être sorti du rang et qu'il n'ait rien vu venir. Avec mon profil calme, sans bruit qui peut faire rougir les convenances, qui pouvait s'attendre. Parce qu'en plus, pendant ma période militaire, je passais le plus sombre de mon temps avec tous ces faquins, disait père. Et j'aimais ça. J'aimais ses mains qui savaient faire, cette intelligence de vie et sa profondeur qui, sans mettre les mêmes mots aux choses, était tout aussi honorable que la mienne. J'aimais ses autres styles et je les partageais, fraternellement. Sans manière, je pensais agir de concert avec mon gisant. Eh oui! Personne dans mon entourage familial ne croyait à mon humanisme soudain. Personne ne pensait que cette soudaine compassion pour moins lotis que soi allait durer. Je reviendrai bientôt parmi les miens. Une carrière ne se conçoit pas sans de solides relations. On peut toujours s'inventer des diplômes, mais pas un carnet de bonnes adresses. Ils avaient raison. Une fois déposé mes habits militaires, j'oubliais mes nouveaux amis. Sans trop tarder, je pris un autre pli. J'épousai une gente damoiselle du même moule, bien sous tout rapport. La peur du vide, sans doute, le besoin de rassurer mes géniteurs et leurs affidés. Sans oublier le confort qui, quand on le goûte, a un pouvoir d'attraction pas piqué des hannetons, disait mère. La vie est une chose tellement sérieuse que je dois la ranger dans les bonnes cases vitement, m'étais-je dit. Marie-Claire m'a donné, depuis elle les garde, deux beaux enfants. Les dix sont devenus, au fil du temps, deux petits cons prétentieux. Un garçon, une fille, sûr, ça devait le faire. Pas du tout. Je n'ai jamais été fier de cette engeance et je ne m'en accommode toujours pas. Les épousailles, quoique de bonne facture, ne durèrent pas. Plutôt que de fracasser le service athée offert par tante Agathe, nous nous sommes séparés. Pas très bons amis, un peu inquiets de s'écarter de cette structure construite entre gens d'importance. Mais avec le temps, nous savons bien que les chemins sans creux n'existent pas. Les bosses restent. Le divorce prononcé, j'ai perdu toute crédibilité auprès des miens. Pensez-vous, chez nous, on ne se sépare pas, on endure. Mais la gêne fut de courte durée. Père ne me tenait plus par la barbichette. J'avais fait assez de pognon et de relations à la seule force de mon poignet. Mes nouveaux amis, peu recommandables il est vrai, m'épaulèrent dans l'épreuve en me présentant des poupées pour décorer mes voitures de sport. Comme la vie en plastique ne m'a pas suffi pour m'épanouir, je me suis mis à fréquenter des gens plus consistants. Chemin faisant, j'ai croisé Hélène. Elle m'a dit oui, 10 ans déjà. Mais elle est devenue un remède super efficace contre les sentiments. Pas de grandiloquence avec Hélène. Tout s'explique, se commente, s'analyse, se compare, se classe et la place pour le ressenti ou les élans, il y en a pas. C'est l'hégémonie du cérébral. Quant au vénal, j'en connais une qui regrette le temps des poupées. Je vis seul, et, finalement, ce n'est pas pire. Mais ce n'est pas mieux non plus, parce que j'ai le sentiment que, peut-être, la vie c'est aussi les autres. Je prends du recul, plusieurs mètres. Oh, la belle maison! Je prends du recul, plusieurs années. Oh, le désert affectif! Voilà demain qui se pointe, et je n'en sais que faire. Rien ne croit, à part ma pension alimentaire et ma fortune qui prennent de la valeur, je ne vois rien venir. Ma vie s'effrite et mon regard sur le grand cirque demeure circonspect pour ne pas dire désespéré. Le jardinier du château familial m'avait prévenu. La vie est une tartine de merde et quel que soit le fournisseur, ça pue la merde. Dire ce genre de choses à un enfant, quelle honte. Je suis seul devant mon miroir. Il me renvoie la vraie image, l'autre image, une sale image. Je suis moche en dedans. Je ne me sens plus la force de devenir brave parmi les braves. Quotidien. Il est 7 heures. Les informations. Et pas de conclusion à mon rêve. T'as bien dormi? Moyen, et toi? T'as des soucis? Non, les trucs habituels. Moi, c'est le gal qui me fout la pression. Je trouve plus mes chaussettes. Tant que tu as ta tête, ha ha ha. Combien de tartines? 3 ou 4 avec du beurre de cacahuète. Va réveiller les enfants. T'oublie pas de prendre du pain en rentrant. À ce soir. Aujourd'hui, j'ai mis mon costume en alpagare, celui que je suis censé garder pour les grandes occasions. Ma cravate en soie bleue, ma préférée. Elle m'a dit que j'étais chic et trognon, sans rire. À l'agence, Gérard va me demander si je marie mon fils, et Isabelle. Pourquoi une autre? Alors qu'elle? Ce midi, faudra faire gaffe à ne pas tâcher ma tenue du dimanche. Mais j'ai cette impression, car ce n'est qu'une impression, de changer, de vivre une journée différente. Quand j'ai eu mes premiers poils, j'avais la certitude que l'habit faisait le moine. D'ailleurs, les gens d'importance étaient toujours ou presque bien sapés. Je m'appliquais donc à soigner mes tenues, tout en toisant avec mépris les attifés. Puis, je me suis lassé. D'abord parce que passer plus d'une heure à se préparer quand on a encore sommeil, ce n'est pas marrant. Ensuite, parce que, avant l'accoutrement, il existe des moyens de reconnaissance autrement plus significatifs. À savoir le pouvoir, le pognon et, dans une moindre mesure, la peau d'âne. J'aurais bien gardé mes certitudes des premiers poils. Bien carré, facile à ranger, compréhensible, rassurante, péremptoire aussi, et surtout, la preuve d'un caractère bien trempé, d'une personnalité forte. Parce que c'est quand même confortable de douter sans trop savoir et de faire comme si de rien n'était. Tous les adultes très cons vous le diront. Il paraît qu'il y en a même qui ne doutent pas. En fait, je n'ai rien gardé. Dommage. À cette époque, je faisais preuve d'une certaine droiture. J'avais envie d'avancer autrement qu'en crabe. Avancer, avancer encore, avec élégance vers sa destinée, tracée pour vaincre ou périr. Je m'emporte. Rien de cela n'est venu. Je suis devenu pleutre, turiféraire de mon chef, parfois même du député de ma circonscription, qui me parle comme si j'étais son égal. Évidemment, assez trouillard pour rejeter toutes les fautes que j'ai commises sur d'autres épaules. Je quêtais les strass, me voilà couvert de confettis. Quelques grands gestes et autres gesticulations m'ont apporté le minimum acceptable pour rester dans la partie. Trouver un sens supportable une fois calé dans ses marques, pas tout à fait glorieuse, mais pas non plus trop pourrie. Pour le reste, on verra plus tard. En attendant, je suis un pantin qui se tolère. Mon histoire, quoique banale, se vit quasi joyeuse. Histoire refaite à l'identique, d'un utérus à l'autre, avec les mêmes excuses, les mêmes dieux. Si au moins elles existaient, je pourrais le temps venu leur donner une deuxième chance. Le privilège d'être logé en banlieue chic pour une bonne 30aine d'années et de pouvoir laisser sa voiture dehors et de retrouver ses poubelles en position verticale. L'inconvénient est de tondre sa pelouse et d'entretenir son jardin comme il se doit. L'avantage, c'est d'observer ses voisins, voir s'ils font pareil. Se rassurer devient primordial pour assumer nos imbécilités. Le voisin d'à côté, car il y a toujours un voisin d'à côté, est un exemple pour la nation. Tôt le matin, avec entrain, il part au taf, déterminé, investi par sa noble mission. Il paraît même, en tout cas, il est dit que, dès son plus jeune âge, il avait déjà la vocation. Il se presse vers sa tâche pédagogique comme si le sort de la planète en dépendait. Car c'est bien connu, l'éducation est la base de tout. Prête à dénicher le moindre signe d'éveil dans les neurones estudiantins. Fort de son savoir, il a cette allure que donne la droiture. Il doit aussi avoir un bon tailleur. Le bougre est élégant et plutôt coquet. Je me suis laissé dire que l'étudiant est sa dope. En effet, à chaque rentrée, il s'agite, frétille comme un gardon, ronge son frein en attendant le jour libérateur. Donner sa connaissance doit avoir des vertus apaisantes. Permettent à d'autres des rêves d'après-demain. Peut-être s'idéalise-t-il dans le haut de gamme. Peut-être ignore-t-il que la plupart de ses élèves sont des veaux, qu'à part le rut, le fric, la carrière et la tranquillité. Peut-être qu'ils se foutent du reste un peu beaucoup. Peut-être. C'est bien beau tout ça, mais je vais me mettre en retard. En sortant, j'aperçois ma voisine d'en face, car il y a toujours une voisine d'en face qui sort ses poubelles. Son peignoir s'entrouve sur une gorge profonde et j'entrevois un quartier des seins lourds, bien trop pressé par leur prison de soie. J'écarquille la pupille en souhaitant bien fort que les tétons rebelles s'évadent. Elle se sait observer, s'en amuse en traînant la patte. C'est presque devenu un jeu entre nous, sans doute parce que nous ne succomberons pas à la tentation. Trop de problèmes, trop d'emmerdements, de cris, de violences inutiles. Nous pratiquerons l'innommable et penserons l'un à l'autre en forniquant avec nos conjoints respectifs. Pourtant, je vais m'imaginer les choses toute la sainte journée. Moi et mon pivot Salas, prenant la voisine en levrette après lui avoir fait subir ce que je n'ose pas demander à la mère de mes enfants. Quel courage ! Je dis et répète souvent à ma progéniture, soyez droit. Heureusement à l'agence, les collègues ont une mauvaise peau ou les cheveux gras ou des culottes de cheval ou mauvaise haleine, si bien qu'il m'est loisible de bien travailler sans être perturbé par ma libido et d'être complimenté par le chef pour mes tâches répétitives. Et je suis fier. Sans trop savoir pourquoi, je le suis parce qu'en réalité, à l'usage, mon chef est assez con. Le midi, Gérard, notre représentant syndical, lance quelques sujets d'importance et, comme personne ne le prend vraiment au sérieux, ça rigole et ça se passe bien. Les heures d'après sont un peu longues. Le personnel peu efficient à ce moment de la journée a tendance à commettre des erreurs qui seront corrigées dès demain matin. J'ai taché ma cravate en buvant un café vers 4 heures et je vais me faire gronder. Le retour enfin. Retour dans ce foyer confortable et joyeux. Les enfants, comme chaque soir, rushing pour les devoirs, mais une promesse de récompense y met bon ordre. La carotte et le bâton. Le principe de base auquel ils doivent s'habituer. Au repas, nous parlons de nos prochaines vacances en famille à Royan, chez papy. Le pauvre est seul dans sa grande maison depuis que mamie est partie pour Sidi Ifni avec un partenaire de gym, vivre sous le soleil dans un camping-car. Puis maman suggère une escapade à Marne-la-Vallée qui, tout de suite, provoque l'enthousiasme. Moi, je n'ai pas de suggestion à part changer de voiture pour faire la nique à Gérard qui n'a même pas pris le grip control sur sa dernière brouette. Le nul! Bon, il est tard au lit, bonne nuit les enfants, et pas de jeux vidéo. Avant de songer, je pense à la voisine qui hante encore mes testicules et je tente un rapprochement. Non, pas ce soir, chérie, je suis crevé. Covoiturage. Vu le regard noir qu'il m'a lancé, j'ai tout de suite compris que pour rester dans ses petits papiers, je devais me plier au covoiturage. Ce qui consiste à partager son véhicule avec des inconnus, avec qui on ne va pas forcément s'entendre, avec qui on sera obligé de finir le trajet, même s'il pue. Ce n'est même pas financièrement intéressant dans mon cas, mais il m'a dit de le faire, et je vais le faire. Les parents sont ainsi, prêts à plier aux desiderata de leur engeance, pour faire plaisir et pour avoir la paix, prêts à céder, à obéir, histoire de faire jeune. C'est fou comme il est facile de perdre toute personnalité, parfois tout sens critique, avec des niards encore boutonneux et pas tout à fait finis. Comme si, sur le fond, leur jugement était d'importance. Comme si, motivés par de mûres réflexions, de grandes expériences, ils coulaient de source. Finalement, mon fils s'est arrogé le droit d'être mon tuteur. Moi, je suis le petit garçon obéissant qui ne veut pas déplaire. Attaché à ne pas devenir la honte, je ploie aux us et figures imposées, même si je les trouve inadéquats ou parfaitement cons. J'ai trop besoin de l'amour, de la reconnaissance, de ce petit être que j'ai connu à moins d'un mètre et qui me toise à présent de toute sa hauteur, prêt à soupirer en soufflant bruyamment à la moindre de mes incartades. Je m'écrase, je crains trop les pointes de mépris qui me renvoient à mon obsolescence pour m'écarter du chemin qu'il a choisi pour moi. Je suis un nouveau père, file-moi du fric et ferme ta gueule. Je lui ai trop dit que je travaillais pour lui, pour son bien-être, qu'il puisse avoir et faire tout ce que je n'ai pas pu amasser et exécuter. Le combat est perdu d'avance. Alors je ne fais pas front, je ne discute pas, j'évite l'affrontement en cherchant à faire bonne figure. Plaire au tyran. Trop de pression, de chantage aux sentiments pour un géniteur qui n'a pas mesuré la portée de ses actes, à méjuger l'importance de cette petite bête qui s'échappe pour aller féconder, perpétuer la race. Le plaisir de jouir, c'est comme le plaisir d'acheter. de bonnes grosses sensations éphémères et de foutu crédit pour des années. De longues années. Mais je me vengerai le moment venu, quand plus tard, il me laissera ses enfants à garder pour qu'ils puissent aller avec la pièce rapportée aux Seychelles. Je me vengerai. J'apprendrai à ces bons petits des noms d'oiseaux, la fainéantise, la désobéissance, l'égoïsme, à conduire seuls leur voiture électrique. Et pas question de covoiturage. Je poirote, là, tout de suite maintenant, depuis un quart d'heure, en regrettant déjà de m'être engagé. Je me suis dit, après tout, Nantes-Clermont-Ferrand, via le Mont-d'Or, ça le fait. J'ai trouvé une personne pour l'ensemble du trajet, avec quand même un crochet et un autre passager de Cholet à Poitiers. Je vais m'emmerder pour rien, en fait. Mais mon fils m'a dit que c'était un bon début sur le chemin de la solidarité. J'ai pris ça pour un compliment. Une grande fille tout en cuisse avec un sourire destructeur se dirige vers moi. Je veux dire vers mon véhicule. J'ai l'âge d'être son père, mais l'envie de devenir son amant. Pas sur le capot de la bagnole, mais pas loin. Je n'insiste pas car je pense être seul sur le coup. J'évite et j'éviterai toute allusion façon gros dégueulasse. Un comportement fraternel suffira. Hélène, t'as un peu de place dans ton coffre? Moi c'est Julien. Tu ne pouvais pas te démerder pour être à l'heure? Désolé, je n'ai pas pu faire autrement. Si, si, je t'assure, pas la peine de m'en faire un fromage. Mon temps ne t'appartient pas, mademoiselle. Je m'excuse, monsieur, je ne le referai plus. La dernière phrase est accompagnée d'un regard profond, plutôt amical. Elle se sait séduisante, en abuse sans vergogne, enjôle, je le suppose à tour de bras, en évitant ainsi de fallacieuses discussions. Je vais lui ouvrir le coffre. Je charge son sac, je lui souris. Quel pantin je fais. Je suis attendu demain à Clermont pour un audit, mais Hélène s'arrête au Mont d'Or, et je dois faire le détour. Je dois. C'est mon despote de fils qui le dit. Il m'a même expliqué pourquoi je dois le faire. À son âge, les discours démagogiques et les formules lapidaires sont inclus dans le comportement quotidien. Au lieu de lui dire « C'est ça, du con, t'es un foutu de débarrasser la table ou de tondre la pelouse de temps en temps et tu trouves normal que je perde une heure pour amener à bon port une pétasse qui ne met rien », je lui dis « Oui, c'est vrai, pour quelques minutes, ça serait mesquin ». Dans mon métier, on me dit dur, tenace, tranchant, froid et distant. À quelques encablures de Cholet, je dois récupérer un gars pour le mener à Jaunéclan près de Poitiers. Un détour de plus. Mais quand on aime rendre service... Jusqu'au pays du mouchoir, le trajet est agréable. Dès le début du voyage, nous discutons à bâton rompu, de tout et de rien, et surtout de rien. Comme si nous étions de vieilles connaissances, Hélène est une passagère charmante, toute pleine d'humour. Mes préjugés s'effondrent. Elle n'est pas bête à remuer son cul et ne faire que cela, ce qui en général m'exaspère, même quand je me laisse faire. Bien au contraire, elle semble assez maligne. Mais les conversations bateau ne sont pas suffisantes pour en juger. Nous verrons bien au fil des kilomètres, me dis-je. Sa voix est douce, tout en harmonie. Je me laisse bercer. Trop à mon goût. Elle a ce sens inné de la séduction que j'envie à certains car tout leur semble facile. Je me contente de répondre le plus finement possible à ses traits d'humour sans pour autant m'aventurer sur les chemins tortueux des ambiguïtés. La retenue, en tout et pour tout, est ma seconde nature. La vie et ses contraintes obligées ne m'ont rien appris d'autre que la retenue, la modération, le consensus mou et tous ces aménagements censés nous libérer des chéries quotidiennes. Avoir la paix en noyant le fond du problème dans un grand puits, dans un grand puits, dans un grand puits. J'apprends que la belle Hélène va faire la saison en station pour se financer un prochain voyage au pays du soleil levant. Au retour, elle reprendra ses études où elle les a laissées traîner. Tout ceci me semble bien organisé. Quoi comme études? Sociaux. Et y a des débouchés? Ça me plaît, la socio. Imparable, comme sur le fond, j'ignore à peu près tout de la discipline. Je pose des questions. De bonne grâce, elle me répond. Je l'écoute attentivement. Je suis intéressé par ce qu'elle me dit. Pourtant, baigné, englué, par le monde de la finance, tout ce qui ne se quantifie pas est a priori suspect et ne m'intéresse pas. A priori. Mais Hélène sait parler de ce qu'elle aime, et, moi, je prends du plaisir à l'écouter parler. Elle m'observe du coin de l'œil. Je l'observe du coin de l'œil. Nous prenons de l'intérêt à l'autre. On a beau chercher à le faire en toute discrétion, ça ne marche pas. Déjà Cholet. Passe, passe le temps. Qu'un cas, de ci, de là, nous y voilà. Nous sommes tous les deux de joyeuse humeur, comme deux bons potes en goguette. C'est après que tout se gâte. Le côté obscur de ce voyage. L'autre face de la pièce. Nous chargeons un grand jeune homme boutonneux qui, rapidement, s'avère être un crétin bien avancé. Il va s'entraîner pendant le trajet à peaufiner ses idées bien arrêtées tout en gâtant l'atmosphère positive qui régnait dans l'auto jusqu'alors. Comme il trouve sa vie passionnante, il la narre par le menu. Un long monologue dans lequel il se perd parfois et qui devient un bruit de fond. Du coup, lassé, mais voulant rester poli, je ne l'écoute plus. Pas plus que je n'écoute mes collaborateurs quand ils me demandent de meilleures conditions de travail. Dans la pratique, ça veut dire une augmentation. Et que leur voix devienne lointaine, à peine audible. Tandis que le sacripant déblatère, je mets de la musique en sourdine. Hélène soupire pour sourire un peu plus tard lorsque le chenapan s'endort. Enfin, je l'observe dans le rétro pour constater sa laideur. Un long silence. Des anges passent. J'ai une amie intime avec qui je partage habituellement la route. Seule avec elle. Elle seule connaît mes débordements, mes ressentis, mes oniriques vibrations, mes expériences mystiques. Nous avons ensemble profusion d'anecdotes. Tu écoutes quoi comme musique ? Que dire qui n'ait déjà été dit sur cette sensation d'être transparent pour un autre que soi ? Cette idée des choses qu'il suffit d'évoquer à peine pour qu'elles soient partagées. C'est bluffant, non ? Jusqu'à Poitiers, nous devisons art lyrique tandis que le malandrin ronfle. Il a la courtoisie de se réveiller quelques minutes avant sa destination finale. Nous nous séparons, bons amis. Il est ravi d'avoir fait notre connaissance, ravi d'avoir eu un dialogue fructueux. Puisque tu le dis. Nous parlons la même langue, utilisons les mêmes mots avec parfois la même signification. Pourtant, avec certains humains, comme ce brillant jeune homme, nous ne nous comprenons pas. Tu ne trouves pas ça bizarre ? Je n'ai pas vraiment d'explication. En tout cas, ce malandrin ne vivait pas dans le même monde. En attendant, la présence de ce coquin a gâché le trajet. Tu veux dire ce Galapia, ce Galvaudeux, ce Gredin ? La route à suivre promet d'être belle. Nous avons retrouvé notre allant, peut-être bien notre complicité. Oui, j'ose le mot. Je n'ai aucune idée pour les minutes à suivre, mais je viens de vivre celles qui viennent de s'écouler pleinement. Jusqu'alors, ça ne m'est pas arrivé souvent. Tout a des projections sur l'avenir de la finance, tout a des supposés probables. J'ai oublié tout, du pourquoi, tout, du comment vivre sans attendre un hypothétique résultat. Je me sens là, usé par du n'importe quoi, fatigué par cette sensation d'à quoi bon qui, je le suppose, gagne tout quadragénaire ayant réussi dans la jungle sociale, dit-on. Nous nous arrêtons à Aubusson, la capitale de la tapisserie qui a fini par faire tapisserie. Je n'ai pas vraiment faim, mais j'ai envie de me retrouver en face d'Hélène sans trop savoir pourquoi. Me plonger dans son regard, peut-être m'y voir, peut-être m'y noyer. Je rêve encore à l'inédit. Je suis sans doute encore un peu en vie. Je le crois, parfois. La crêperie La Maison est tenue par deux olibrius plutôt sympathiques. Je m'arrête souvent dans cet estaminet quand je passe par là. Je n'aime pas les crêpes et les galettes, mais le climat qui règne, la bonne humeur, la décontraction, l'allant et l'humour des maîtres de séance. Sans compter la rapidité du service. Hélène s'émerveille sur la carte et passe un bon gros quart d'heure à l'éplucher. L'homme pressé que je suis s'est toujours contenté des quatre premières pages qui déclinent les menus et ce, malgré mes nombreuses visites. Un peu court pour un document d'une soixantaine de feuillets. Florilège d'annotations et de dessins griffonnés par les clients sur les nappes en papier. C'est souvent drôle, parfois surprenant, certains dessins sont vraiment très beaux, toujours positif quand il s'agit de commentaires sur l'établissement, pour ne pas dire dithyrambique. Mais, sur ce point, le restaurateur me souligne qu'en général, les avis négatifs sont rarement exprimés de face, l'esprit chagrin n'étant pas connu pour son courage. Je crois plutôt que la stature de tenancier invite à la modération. Ce n'est pas un haut lieu gastronomique, comme on dit dans les guides devenus « Bible », mais les produits sont simples, bons et de qualité. Les hôtes assurent le spectacle, distillent une ambiance rigolarde pour faire en sorte que l'instant soit agréable. Hélène est contente, me remercie avec un regard qui tue. Je l'imagine assassin, mais je me garde d'y répondre. Je n'ai aucune envie d'envisager le moindre avenir, fût-il amical, pour nous deux. En tout cas, je crains suffisamment les conséquences supposées pour ne pas avoir envie de le faire. Chacun son milieu et les vaches seront bien gardées. Chemin faisant, nous reprenons pourtant nos échanges avec une sorte de jubilation. Celle qui n'est accordée qu'aux âmes sœurs. Je n'arrive pas à me rigidifier, à m'abstraire du ton badin qui donne du sel à notre conversation, à m'éloigner de ce qui tend à nous rapprocher. On dirait qu'il s'agit de notre juste place et que le reste est sans importance. Habituellement, pendant les trajets, je ne pense qu'à mon travail du lendemain. Sans être angoissé, je me préoccupe. La complexité de mes tâches m'accapare tout entier. Je ne vois rien d'autre. L'environnement m'est étranger. Tout ce qui se passe en dehors de ma bulle m'indiffère. Là, avec Hélène, rien de cela. Mon boulot fait dodo tandis que tout coule de source. Elle ne pense pas à la gravité de la situation avec une docte attitude. Elle n'appréhende rien comme si le sort de la nation en dépendait et met de l'ardeur à vivre pour cueillir dès aujourd'hui. Donne à chaque respiration de l'importance, veut faire de chaque minute un chef-d'œuvre comme si c'était la dernière. Je suis bien ainsi, à me laver la tête, à m'ouvrir, à accueillir ce qu'elle délivre sans compter. Je me mets à croire à d'autres angles, d'autres vues de l'esprit, à un autre que moi, plus disert et moins avare de ses sentiments. J'apprends. Curieux sentiment que d'apprendre, d'un plus jeune que soi, quand notre éducation nous assène le contraire, en glorifiant le mot magique « expérience ». Un mot inventé par de vieilles barbes ratiocineuses qui nous abreuvent de subtiles théories avec les mêmes arguments. Un mot qui entrave ceux qui peuvent en donnant tous les droits à ceux qui ne peuvent plus. Quand ils deviennent incontinents, ils ajoutent un autre mot, sagesse. En attendant, Hélène m'apprend la vie du jour et sa dégustation immédiate. L'autre vie ne m'apprend plus rien. J'en fais fi sur cette route nourrie au cul de poule. Les routes de la Creuse sont comme des pommes oubliées au pied de l'arbre, trouées et pourries. À la Bourboule, Hélène m'invite, en tout bien tout honneur, à casser la croûte dans le studio qu'elle a loué. J'accepte parce que je sens qu'il faut que je le fasse. Pendant qu'elle récupère les clés, je l'attends dans un bistrot où mon costard et mes pompes en chevreau font de l'effet. J'ai un mal fou à me tailler sans répondre aux questions induites par les curieux alcooliques recensés. La fuite, parfois, est honorable, dit-on. Du coup, je me caille les meules dans ma caisse en attendant les clés du paradis. Vocabulaire emprunté à mon fils duquel je me sens à présent redevable. Va donc savoir pourquoi. Arrêt au supermarket. Je me stationne assez près d'une Porsche, déjà bien atteinte par l'âge. Un homme à tête de hibou est à son volant. Il doit sans doute veiller à la prunelle de ses yeux en attendant que sa blonde fasse les courses. Je me l'imagine assez facilement, une fois les pieds sous la table, et je lui trouve des similitudes avec votre serviteur. Comme je me suis éloigné du quotidien, Hélène guide mes pas. Les achats sont vite faits. Nous avons quasiment les mêmes goûts. Ce qui arrive après est tellement vrai que je ne puis le croire. Pendant le repas, Hélène me fait remarquer que je suis le seul quadragénaire qu'elle a croisé parmi les covoitureurs qui ne lui ait pas fait de proposition salace. Elle ajoute « Dommage, pour une fois que je rencontre quelqu'un dans mes cordes, et puis je trouve ça un peu humiliant de lancer des filets pour constater que le gros poisson reste dans ses pensées. » Je lui explique mes peurs, ces angoisses qui me lient à la sécurité, au besoin de ne pas sortir des clous, cette trouille d'avoir mal après. J'ai beau ne plus aimer personne dans mon entourage, il me rassure, cautionne mes actes d'automate sociopathe. Un autre type de vie ne m'inspire que danger, déconvenu, tristesse. Pourtant, une partie de moi n'est pas tout à fait d'accord. Et t'es heureux ainsi? T'as une famille et des enfants qui t'aiment? Je me trompe? Oui, c'est ma famille qui m'a, et qui fait en sorte de m'être redevable pour que je puisse culpabiliser tout le long. Je ne l'aime plus, ou pas suffisamment pour le clamer haut et fort. Rien de neuf, docteur, tu ne t'ennuies pas? Pas tant que ça, tout roule, sans plus rien amasser. Abbastanza bene, en italien dans le texte. Il est content? Non, je ne le suis pas. Nous avons passé presque toute la nuit à parler, nus sous les draps, sans se toucher. Moi, je dors à poil, tu fais comme tu veux, m'a dit Hélène. À discuter de nos joies, nos peines, nos déceptions, nos projets avortés, nos visions pour l'avenir et à délirer sur les cons, car c'est bien connu, les autres le sont. Au petit matin, avant mon départ, nous nous sommes regardés longuement, comme pour conclure que, décidément, nous étions d'accord sur presque tout. Elle m'a dit « Sauve-toi, tu verras bien ». Je suis arrivé à Clermont, la tête dans le slip, les yeux en trou de bite, sans allumette pour les tenir ouverts. Une journée longue, toute de labeur, pendant laquelle j'ai dû déployer une incroyable énergie pour ne pas trébucher à la première marche, bégayer à la première phrase. Mais j'avais la grâce, la force d'exister au-delà de moi, au travers d'un autre que moi, une autre. Le soir venu, j'ai prévenu ma femme que je ne rentrerais pas avant 2 ou 3 jours. Boulot, boulot. Mensonge effronté. Le premier en 20 ans de carrière de mari. Je savais très bien où j'allais dormir et avec qui, tout en n'ayant aucun scrupule à le faire. Nous avons échangé nos corps sans dire un mot. Avec douceur, curiosité et ce sentiment de franchir une étape obligée, cette nécessité d'obéir à une loi naturelle. Après, nous avons peu parlé. Puis nous nous sommes endormis dans nos bras. Je m'y suis trouvé tellement bien que j'y suis resté. 10 ans déjà. Le quotidien m'étreint, tout le temps, c'est pas rien. Et je fête ce jour où t'as bien voulu naître. Je n'ai pas revu mon fils. Il me fait la gueule et refuse de me parler. Pourtant, j'aurais aimé le remercier pour son idée de covoiturage.
Mauvais rêve. Dans la famille, nous jouons tous d'un instrument, avec plus ou moins de bonheur. Ma sœur aînée est devenue premier violon d'un philharmonique. Elle est la fierté de ses parents, parce qu'elle est douée, vraiment douée. Elle travaille beaucoup aussi, vraiment beaucoup. Difficile de ne pas l'admirer quand on aime la musique. Je suis son exact contraire. Moi, je pianote depuis toujours, mais sans talent particulier. Et même s'il m'est arrivé de travailler beaucoup par le passé, les résultats ne sont pas là. D'ailleurs, je n'impressionne que les amateurs, jamais les érudits. J'ai pourtant eu les meilleurs enseignants. Il y en a eu un qui me marqua plus que les autres. L'abbé Ration, un organiste émérite qui se déplaçait exprès pour moi. À la maison, nous avions une immense pièce, au milieu de laquelle trônait un magnifique queue Steinway, consacré à la musique. Je me sentais tout petit devant l'instrument, tout intimidé, jamais vraiment décontracté. Bien souvent, tandis que je transpirais sur les touches bicolores, sans cesse à faire et à refaire des gammes inutiles, car jamais, je le savais, je n'arriverais à sortir une série de notes presque parfaites à entendre pour une oreille un tant soit peu exigeante. Pendant les exercices, l'abbé se collait derrière moi, les mains sur mes épaules, toujours prêt à voler à mon secours et à guider mes doigts trop courts sur le clavier. À l'occasion, il n'hésitait pas à prendre ma petite mimine dans sa grosse patte poisseuse. Ça me dégoûtait. Il se collait tout contre moi. Je sentais son souffle court dans ma nuque. Ce bougre d'âne bandait comme l'animal en question, en maudissant sans doute son vœu de chasteté, mais en laissant le diable œuvrer quelques minutes, trop longues pour le petit garçon qui ne comprenait pas grand-chose. Grand Dieu, il n'eut rien à saisir. L'homme finissait toujours par reprendre ses esprits. Il tentait alors de cacher son trouble, se levant brusquement pour aller observer le parc par la porte-fenêtre. Avec le recul, je me demande pourquoi il n'a pas fait une tentative en adéquation avec sa nature profonde, alors que d'autres n'hésitent pas à braver l'interdit. Ce fil ténu que l'on franchit ou que l'on ne franchit pas m'intrigue. Sa fragilité, sa tension plus ou moins forte, selon nos capacités à céder ou pas, à d'indignes pulsions scélérates. Pourquoi succombent certains alors que d'autres pas? Quoi qu'il en soit, cette expérience aux frontières de l'acte délictueux ne m'encouragea pas à persévérer. Mais je dois à la vérité l'aveu d'une réelle absence de talent. Mon père me reprocha des années mon manque de persévérance, alors que Marie-Claire, elle, je crois qu'il ne m'aimait pas, tout du moins qu'il avait une grosse préférence pour ma sœur. Il avait raison. Il s'irritait de mes défections. L'assiduité est la base de tout. L'amateurisme patent est une constante chez moi. J'abandonne très vite. Je me demande de qui je tiens ça. Et puis, le mois dernier, j'ai fait ce rêve qui a tout changé, tout remis en question, tout détruit le peu que j'avais regardé pousser. Un rêve musical. Moi, qui ne me souviens jamais de mes songes, il a suffi d'un seul pour tout bouleverser. Un rêve où je jouais de l'orgue à la cathédrale alors que je n'y fous jamais les pieds. J'étais assis face à l'instrument immense, dressé comme un fantôme du passé, imposant, écrasant, superbe, lourd et léger à la fois. Beau en somme. Je jouais avec l'énergie d'un désespéré qui cherche un sens aux choses de sa vie. Je jouais des pieds et des mains comme un virtuose et, ultime paradoxe, je n'ai jamais su jouer de l'orgue. Mes sens étaient en éveil, à l'affût des sonorités, de la moindre des harmonies pour que tout coule, que j'y puisse y verser un trop-plein d'énergie, une vie de joie et de peine. Je jouais à perdre haleine, à perdre le sens du temps qui passe, à perdre des bouts de moi-même jusqu'alors égarés pour trouver cet état second tout de douceur, de langueur mais aussi d'hardiesse. Je frissonnais d'ute et de contrute, à la merci des mélodies que, virtuose habitée, je sublimais. Tel un dieu gorgé d'appétence, comblé par sa domination sur la matière, j'errais au-delà sur des chemins luminescents qui éclairaient enfin la médiocrité de mon existence. Et puis sortir des longs tuyaux par leurs bouches sonnantes des nymphes au corps parfait. Voluptueuses, elles me charmèrent, me frôlant de leurs seins, de leurs hanches, de leurs doigts et leurs bouches me criaient « Continue et continue encore, que le feu te maintienne !» Moi, je couchais des sons sur leur corps alangui, caressais leurs âmes pour qu'elles se pâment encore. Moi, je devenais turgescence, sans limite, sans interdit. Une extase, un orgasme suprême d'une intensité folle, insoupçonnable. Un inconnu inouï, une empreinte définitive au sommet du plaisir. Mes rêves avaient sauté les barrières du concret et je m'éveillais trempé par ma sueur et par le reste. M'en suis retourné mourir parmi vous, tout de regret, car malgré mes efforts incessants, je n'ai pu retrouver cet état second qui m'emmena bien au-delà de mes désirs simples. J'attends et ne vois rien venir. À présent, j'ai de vrais problèmes d'érection tant la réalité me cloue. Je suis de marbre, placide, le museau perdu, la truffe sèche, l'engin insensible à la tentation. Je ne crois plus aux réalités qui me semblent insuffisantes. J'attends le même rêve qui, je le sais, ne viendra pas. Et je ne bande plus.
Thomas, mort ? À force de faire des choix judicieux, tout à ma destinée, je me suis fait une place au soleil. Un coin pour se râler parmi la chair blanche des petits poulets serviles et rémunérateurs. Mais avant que de prendre position, j'ai dû étudier les questions à l'université pour donner à mon cursus un air quelque peu supérieur ainsi que la manière de l'être supérieur. Je me suis différenciée, accoutumée aux modes et travaux qui posent l'homme à l'endroit de l'envers du décor. Vaste programme et vile certitude qui font que l'homme est un féodé à l'homme, qu'il s'en gosse ou s'en lamente, suivant « the position », comme disent certains Grecs, dont la rumeur, quoique infondée, a fait la réputation sodomite. D'un autre côté, entre nous, il n'y a pas de doublure, mais des affaires. Grâce à un dynamisme inné, la bonne fortune d'en avoir dès la naissance, j'ai rapidement pu prendre des directives et gérer le monde en responsable. Asseoir mon autorité, peser de tout mon poids sur ceux qui ne sont pas nés au bon endroit, qui n'ont pas persévéré sur les bancs de la bonne fac en se saignant à blanc ou dans une grande école en s'endettant à mort. Cependant, les contreparties furent dures à digérer. Car quoi qu'on en dise, user ses jeans sur les bancs d'un amphithéâtre, faire en sorte que l'exercice soit utile, demande du travail, voire une sorte d'abnégation. Un bouillant jeune homme sur le pas de la porte des plaisirs futiles souffre de ne point trop en croquer. Plutôt que de se frotter les parties dans l'orifice adéquat, il doit lui-même trouver une solution moins énergivore. Alors, mes seuls vrais excès furent de me poncer les couilles à ma table de travail, d'avoir mal au cul après des heures d'études. Ça m'a concassé l'âme, brisé des désirs qui, à présent, n'ont plus vraiment d'attrait. Et puis, il faut bien le dire, j'entends tellement souvent des imbéciles prétendre que les universités sont remplies d'inutiles, de feignants, de bons à rien, et que seul le terrain forme un homme, qu'il me faut rétablir une certaine réalité. Car, malgré un environnement satisfaisant, j'ai quand même dû apprendre des choses, me remplir la tête, réfléchir à des problèmes minutiants pour comprendre comment gérer l'agneau de Dieu. Alors les spécialistes du lieu commun, de la méthode empirique et de l'apprentissage à grands coups de pied dans le cul, fermez-la. Faut me comprendre, je craignais tellement d'être un raté que je n'ai pas voulu faire comme vous. Pour les rêves nichés qui martelaient mon désespoir, j'ai cru devoir attendre. Soyons réalistes, me suis-je dit, à l'impossible, nul n'est tenu. C'est fou comme on devient con en se trouvant des foultitudes de raisons quand on ne croit pas à ce que l'on fait. À présent, je suis réaliste. Je n'ai plus de raison d'avoir peur et je suis un raté qui se meurt. Je crève dans ce monde noyé dans son idiote utopie, autrement nommée la croissance. Ce truc qui change de couleur, mais que l'on prie d'exister quoi qu'il en soit. Sans doute parce qu'il nous absout du péché de penser seul, en égoïste.
ce viol de la planète que l'on épuise, mais que l'on continue à fourrer par tous les trous pour en extraire tout et n'importe quoi. L'utopie du jour qui relègue toutes les autres dans des cases vides ou bien les assassine. Ce nouveau dieu du monde immonde qui donne au petit homme l'espérance folle qu'il pourra encore et toujours être et paraître, rester aussi crétin qu'hier, profiter des nouvelles solutions, s'enrichir, jouir à perdre haleine, s'amuser, vieillir mieux, vivre longtemps jusqu'à être l'être suprême, le poulet à la crème, dieu du monde, prince des poubelles. Car alors, Gaïa ne sera qu'une poubelle. Ce que ne sait pas le petit poulet, c'est qu'il ne sera probablement pas là pour voir ça. La croissance des ordures fera que, effectivement, elles croîtront. Mais pas tellement plus longtemps. Dans ces conditions, j'ai mal à moi. Mon habit de quadrillon m'étouffe, pouf, pouf, patapouf. J'ai pris du bide à force de bouffer gras, salé, sucré. Mes rêves de jours meilleurs pouvaient se concevoir. Il aurait fallu que je me changeasse, que, sans besoin de concertation, le monde suive d'autres pas. Mon besoin de déchirer le temps qu'il me reste, de combler mon âme tourmentée, de brûler mes sens, de cueillir les étoiles filantes, d'exister pour l'après-jour d'avant, s'est enfui. Je dois produire, produire des richesses pour demain, pour ne pas me trouver sans rien. Triste ironie que ce rien qui repose sur du rien. Au mieux des tout petits riens. Comment ai-je pu courir ainsi, tête baissée? Comment ai-je pu vivre sans rien vérifier? Comment ai-je pu croire sans conviction? Je ne vois qu'une répugnante lâcheté. J'ai cru, j'ai grandi, j'ai gravi l'échelle et je trouve le moyen de me plaindre. Comment ne pas croire à l'au-delà quand chaque geste quotidien n'a aucun intérêt? Comment vivre le présent quand il n'est que contrainte, promesse non tenue, rêve de possession, problème sans solution? Soyez irréaliste, croissez et multipliez. Ça ira mieux plus tard. Gardez l'espoir. Nous trouverons des solutions. En attendant, tu ne fais pas chier, tu fais des compromis et surtout, tu produis. Allez les poulets, bossez, il y a de la prime dans l'air. Personne ne peut vivre d'amour et d'eau fraîche. À ce propos, n'oubliez pas votre pastille désinfectante. Le désamour émaille mon jugement. Je mords les mains qui me nourrissent. Je dois rester spectateur, laisser le monde à ceux qui savent. Je ne suis pas assez gros poulet pour être significatif. Je dois prendre parti pour l'ultime utopie, ou choisir de me faire virer, puis écrabouiller. En vérité, je n'ai été qu'un opportuniste mou, pas très doué. Comme je le suis toujours, le mieux serait que je me taise. Quand nous étions petits, la liberté était un mot chargé d'histoire, plein de sens, de grandeur, de noblesse. Qu'es-tu devenue, liberté chérie? Un symbole pour les jours de commémoration? Et maintenant, que dois-je faire? La fermer, te dis-je, de tout ce temps. Oui. Quand Stéphanie s'est assise autour de moi, le contraire eût été impossible, car je suis incapable de cerner quoi que ce soit. Je me suis dit, voilà la fin d'un monde. Juste intuition, en vérité. Elle m'a dit, notre histoire de peau s'arrête là. Et elle a ajouté, eh oui. Je comprends cette fin sans émoi particulier. Pourtant, le bon sens commun aurait pu m'y inciter. 20 ans et des brouettes de vie commune, 3 beaux enfants ingrats dont un gras, une pléiade de souvenirs, une maison de plein pied proche de toute commodité, sans aucun travaux à prévoir, un voilier en copropriété, un studio à la montagne, le dernier four du chef, les vacances en Jamaïque, la carrosserie à roulettes qui en jette. Bon, on va s'arrêter là. Je pense d'abord qu'elle s'est trouvée un mec plus en adéquation, qu'elle puisse se blottir dans d'autres bras, plus solides, plus rassurants, moins hésitants. Rien de tout cela, car, outre la lassitude de voir ma gueule, elle souhaite un changement profond dans sa vie. Une rupture avec son passé qui, elle le pense, n'a pas d'avenir. Stéphanie ne veut pas se laisser surprendre par une crise financière, un effondrement probable ou tout autre chérie que le monde du profit nous prépare. Elle compte se réfugier dans un éco-village. Après, assaillie par mes questions de base mal informées, elle m'explique par le menu les raisons. Libre à toi de croire encore au paradis. Moi, je veux vivre le reste, les pieds dans la terre qui me nourrit parmi des apaisés. Je ne peux plus supporter les excités. Je veux vivre calme, sentir encore un peu ce vent qui nous anime. Pour les détails, les jours suivants, je vais voir mon portable. J'apprends petit à petit au fur et à mesure qu'il y a des gens heureux, quoique pauvres, et, sacrilège anticapitaliste primaire, qu'ils ont choisi la frugalité, la simplicité, en toute conscience. Diantre. Certains, je le constate, sont gouroutisés, mais la plupart d'entre eux, non. Les yeux dans les yeux, en se tenant les deux mains quelques secondes, dernier soupir. Restez bons amis pour ne pas oublier les bons éclats du passé, quand nous étions en bonne compagnie. En soldant une partie de nos biens, Stéphanie pouvait suivre sa voie sans aucun souci d'intendance. Encore heureux que je ne me sois pas fait emmerder dans un bureau pendant la moitié de ma vie, pour que dalle. Avant de quitter le monde des bons vivants, elle m'a laissé un mot, presque un poème, sur le coin de la table du salon. Nous le faisions souvent quand nous étions encore amoureux. Je veux fouetter mon corps de brise nouvelle jusqu'à ce que mon souffle devienne murmure. Sans regret amer, sans avoir à m'agenouiller, sans sécher mes larmes sur le coin des trop tard. Il est déjà demain, et c'est passé trop vite. Porte-toi bien. J'ai été très émue, mais je suis restée avec la majorité de nos biens, ces fameux substituts au bonheur. Mais je suis restée parmi les bons vivants, ces fameux générateurs de profit pour les laboratoires pharmaceutiques. Mais je ne suis pas persuadée davantage que les coins sont carrés, plus faciles à ranger, domestiqués, casés et qu'il fallait faire preuve de discipline, rester coincé dans le sien. Pas le choix. Dormez, brave poulet, tout va bien. Mais au fond du fond, en grattant, à bien y réfléchir. Je sais que Stéphanie a fait le bon choix en s'extrayant des griffes d'un système qui court à sa perte. Cependant, je pense que mes capacités au changement sont nulles, qu'il m'est impossible de me remettre en question, finir par agir. Dès qu'il s'agit de passer à l'acte, je suis paralysée par la trouille. Je resterai un petit poulet, je picorerai les graines en silence. Je me réjouirai de mon sort en grognant. La majorité d'entre nous rêve à un improbable retournement, un changement de situation, un miracle. Normal après 2000 ans d'abstinence, peut-être l'insoupçonnable. La main du divin qui change l'eau polluée en pinard sulfaté, de nouvelles sources d'énergie pour dépenser sans compter, un schmilblick multifonction, une carotte 100% viande, un orgasme virtuel pour l'hygiène, une vie éternelle dans un bocal, une bulle biodiversifiée dans l'espace, la colonisation d'autres planètes. Va donc savoir, la majorité sauve toujours les apparences. Il est pourtant dit qu'elles sont trompeuses, mais je m'y range. Trop con, le mec. Impénétrable. Je me suis fait pigeonner dès le début. Tout bébé, j'avais des problèmes gastriques qui me faisaient souffrir quasiment tous les jours, auxquels s'ajoutaient des bronchites chroniques à répétition. Cigarette au bec, mes parents s'apitoyaient, les yeux tout embués d'amour. Aucun remède n'était efficace. Je toussais à m'en décrocher la plèvre. Enfant, j'ai rencontré l'univers hospitalier. Ce sinistre endroit, tout de blanc vêtu, fut ma demeure pour de longs mois. De très longs mois. C'est le cas lorsque nous sommes titulaires d'une bête leucémie. Je décidai alors que je ne voulais pas mourir. Il paraît que ça aide. Les résultats sont là, je suis encore en vie. Un chemin de souffrance, d'extrême fatigue, où chaque chimio est une haie à franchir, encore et encore. Jusqu'au jour où le sort vous est ou pas favorable. Voir poindre un futur, une possibilité de respirer un peu plus longtemps, m'est apparu, alors comme un privilège. Pendant ce temps, un gentil monsieur à la voix douce m'a aidé et soutenu. Ensemble, nous avons remercié la Providence, agenouillés devant une croix, en marmonnant des prières. Quelque temps. Parce que après, j'ai voulu vivre normalement et rentrer dans les désordres. Bien plus attirant pour une pré-ado que la rigueur d'un couvent. Une proposition du gentil monsieur à la voix douce qui devait trouver en moi les capacités requises pour ce type d'existence. Parvenu enfin à l'adolescence, je constatais que rien ne m'allait être épargné. Cette adolescence, tellement désirée, tellement souhaitée, fut une adolescence de merde. J'étais grasse, en pas très bon état, malhabile, boutonneuse, sans aucun attrait qui puisse décider un garçon ou une fille à me dire « ami pour toujours » ou un truc similaire. Une raison de croire au lendemain. La solitaire moche, bien pratique comme faire valoir, assez conne pour être sympa et rendre de menus services. Surnommée Lipo pour mon embonpoint ou le clavier pour mon acné, la vie au quotidien n'était pas vraiment drôle. Le chemin de croix, du coup, j'ai opté davantage encore vers la gourmandise, pour ne pas dire goinfrerie, comme si je me glissais dans une pelisse chaude et confortable. Oublier le temps qui passe et se remplir d'ennuis solides au sac à rose. De Noël en Noël, je me suis laissée engraisser par mes parents, qui, compte tenu de ma triste enfance, ne cherchaient pas à modérer le seul plaisir de ma vie. Le jour de mes 16 ans, ils m'initièrent à la cigarette qui fait rigoler, et je dois dire que ce fut le premier point positif de mon existence. Car avec les sucreries et les graisses saturées, j'avais trouvé une sorte d'équilibre qui me rendait la vie à peu près supportable. Logiquement, je me suis orientée vers une carrière dans l'alimentaire pour subvenir à mes besoins, mériter mon indépendance. Bizarrement, à force de préparer des tonnes de nourriture pour mes congénères, j'ai pris un recul dingue pour cesser enfin de me saturer de nourriture à tout propos, à la moindre contrariété, à la plus petite vexation. Jusqu'à devenir une jeune fille presque attrayante, aux dimensions acceptables et plutôt bien proportionnées. J'avais de nouveaux amis, je recevais des compliments et n'entendais plus le moindre quolibet sur mon physique. Je devins même coquette. Une fois devenue normée, je découvrais la normalité. Par opposition à l'avant, c'était pour moi le paradis. Il m'arrivait parfois de remercier notre sauveur pour cette nouvelle vie. Je bouffais enfin mon pain blanc. Je le croyais. Un beau jour, il m'a trouvé. L'évidence. Que roule le tambour, que sonne la trompette. Ce qui semblait réservé aux autres s'imposait à moi. Gravir des sommets, vibrer comme jamais, ne pas le croire mais le vivre quand même. J'avais cru que perdre ma panne était le meilleur que je puisse tirer de ma vie et je trouvais le sublime. Le vrai paradis, la vie sur terre en fait. Rien d'autre à faire que se regarder dans l'autre, en rire, en jouir, en sourire et ne faire plus qu'un. Mais il faut croire que le beau meurt, passe de l'un à l'autre sans prévenir. Il faut croire que naître, grandir, décliner puis mourir s'applique à tout ce qui existe. J'ai bien été obligée de le croire, de retrouver la réalité, de m'en reprendre plein la gueule. Une dernière pour la route. Mon amoureux a raté son virage et s'est écrasé avec sa moto toute neuve, tout contre un arbre. Un arbre planté depuis des décennies pour une bonne cause. Un arbre qui s'est fendu en lui prenant les jambes, en lui laissant la vie. Quand il s'est réveillé, il n'a pas bien pris la nouvelle, lui et son manque de pied. Rien ne changea quand on l'installa sur deux roues. Il saigna même de plus belle, ne supporta plus mon regard, ni mon amour. Comme il était très musclé du haut, il arrêta l'hémorragie en se jetant par la fenêtre. Sans elle, il s'est écrasé plus bas. Comme le sort n'en a rien à battre, il s'est tapé 3 mois de coma avant de dire adieu. Ça m'a paru vraiment injuste que le sort le désigne aux asticots si tôt. J'ai pris plusieurs mois pour pleurer, sans jamais me demander pourquoi. Je savais depuis longtemps que mon existence serait une merde. À ce point, cela ne pouvait venir que du divin. Chacun sait que ses voies sont impénétrables, mais moi, je sens bien qu'il fait tout pour qu'elle le reste. Je pense qu'il doit avoir quelque chose à cacher pour faire preuve d'un tel hermétisme. Impénétrable, ça rime avec exécrable, abominable, invivable.